Tech Café, c'est votre rendez-vous hebdomadaire sur les nouvelles technologies avec nous. Vous restez au courant de ce qui se passe et on vous partage nos regards critiques. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, plus que jamais, et je suis ravi de retrouver le chroniqueur plébiscité par les meilleurs poditeurs du monde, celui qui apporte sa pédagogie et son sens critique dans les usages d'aujourd'hui et de demain, auteur du livre Machine de jeu, c'est Guillaume Pogjaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ?
Mais ça va très bien, tu as raison, nous avons les meilleurs poditeurs. Forcément.
Oh, et de très loin. Et pour nos meilleurs poditeurs, voici le sommaire de cet épisode. Des citoyens traqués, des citoyens piratés, des citoyens qui protestent et qui se révoltent. Tour du monde de situations où les hommes se retrouvent confrontés à des situations personnelles difficiles en lien avec les nouvelles technologies. Et puis nous ferons le tour de l'actualité autour du smartphone et des usages actuels ou à venir. On sait que vous aimez ça. Et en vous parlant en particulier d'une app qui fait beaucoup de bruit en Chine, c'est Zhao. Vous avez peut-être vu ça passer, sans oublier bien entendu les news en bref et nos bonus. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que Tech Café est disponible en financement participatif sur Patreon. C'est le modèle économique qui fait tourner le podcast depuis maintenant quelques années. L'idée, elle est très simple, c'est que vous allez sur patreon.com/techcafé, vous prenez connaissance de toutes les infos, et puis bah, vous pouvez accompagner la diffusion de chaque épisode par un petit prélèvement via Patreon d'environ 1 euro. Et d'ailleurs, vous avez été quelques-uns à rejoindre la plateforme et le financement participatif de Tech Café depuis la semaine dernière. Alors je cite Yabé, David Albonac, Sebos et Xavier Thévenot. J'espère de tout cœur ne pas avoir écorché vos petits prénoms et vos petits noms de famille, vos pseudos en tout cas. Un petit mot aussi, j'ai testé un truc, tiens Guillaume, pour l'occasion, je t'en ai même pas parlé. C'est une application que m'a recommandé Matt et je crois que Bertrand Soulier, alias votre coach au web, en avait parlé aussi. C'est Bonjoro. Alors l'idée, c'est une application toute bête, très simple, sur mobile, et à chaque fois qu'il y a un nouveau soutien sur Patreon, je reçois une petite notification sur mon smartphone, et je peux lui envoyer une vidéo complètement personnalisée. Donc je m'adresse à lui individuellement, en citant le pseudo à chaque fois, en quelques secondes, et ça instaure une relation que je trouve particulièrement intéressante. Donc si jamais ça pouvait peut-être vous motiver à tester Patreon, bah, allez-y, hein, c'est l'occasion ou jamais, et puis j'aurai le plaisir de m'adresser à vous personnellement.
Est-ce qu'il y a des paliers ?
Comment ?
Est-ce qu'il y a des paliers ?
C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des...
Oui, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a... au plus tu donnes, au plus on peut te voir, je veux dire...
Ah, ça c'est intéressant. Alors ça, il faut peut-être qu'on y réfléchisse. Qu'est-ce que tu penses ? C'est plus on m'est cher, plus je me dévêtis ? Tu penses qui ferait rêver les gens ?
Par exemple, fais attention parce que ça peut se terminer en challenge où tu manges des trucs, tu manges des machins de lessive et tu sais, fais attention à ça.
Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée en fait. Écoute, plutôt que de réfléchir à des choses qui pourraient nous faire peur sans autre forme de procès, on attaque tout de suite avec les news. Parce qu'il y a des actus chaudes, et on aime bien là maintenant dans Tech Café depuis la rentrée vous parler dès le début des actus chaudes, et on a eu vent de problèmes initialement sur iPhone qui étaient pointés du doigt par Google avec ses entités de sécurité et d'identification de failles, et qui ont dévoilé donc une faille sur iPhone. Alors, de manière assez simple, elle consiste à ce que vous visitiez depuis votre iPhone un site et boum, ça exploite un petit peu la manière dont est construit ce qui s'appelle le sandboxing sur Safari et sur iPhone, donc la manière de cloisonner les informations, et ben pour récupérer des informations. Donc c'est vraiment une faille qui était exploitée, et Google a pointé du doigt cette faille qui a été corrigée hein, depuis pas mal de temps maintenant. Sauf que l'actualité encore plus chaude révèle que ce n'était pas seulement un problème de piratage contre l'iPhone, mais qu'il concernait aussi Android et Windows, et que sa vocation était bien précise, puisque c'est une partie du peuple chinois qui était ciblée, en particulier une minorité musulmane, Guillaume.
Oui, ben oui, ça a commencé avec la découverte d'un petit groupe de sites web malveillants hein, qui exploitait quand même 12 failles 0D d'iOS. Et le Google Tag, donc le Threat Analysis Group, a recensé pas moins de 5 chaînes de vulnérabilité qui permettaient d'avoir un accès total à l'appareil hein, et qui marchaient depuis 2016 sur toute une collection d'appareils et de versions de l'iPhone 5S jusqu'au XR et d'iOS 10.1 à iOS 12. Donc c'est quand même assez large hein, et ces failles sont exploitées par des implants. C'est des petits bouts de programme que les utilisateurs récupèrent sur les sites malveillants à la faveur donc d'une vulnérabilité WebKit qui est donc utilisée par Safari effectivement. Et donc, une fois téléchargés, les implants déterminent où ils sont, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, quoi utiliser. Ils exploitent les failles qui vont leur permettre littéralement de tout faire sur la machine, parce que plus rien n'est inaccessible, je veux dire, après, quand tu deviens super utilisateur. Donc, ouais. Ils se mettent à transférer au serveur pirate absolument tout, donc contacts, photos, les conversations WhatsApp, Telegram, iMessage, Hangout, en intégralité et en clair, d'ailleurs, donc ça vaut le coup d'utiliser une messagerie cryptée. Donc voilà, il y a aussi ta position GPS, bien évidemment, il y a le contenu des répertoires de toute une série d'applications, comme Facebook, Yahoo, Gmail, Twitter, Tweety 2, pour être plus précis, Skype, etc. Et bon, pour faire...
Ce serait plus rapide de lister ce qu'il n'y a pas, en fait.
Ouais, il n'y a pas tout, mais il y a effectivement une liste comme ça, hardcodée d'applications, où ils scannent ce qu'il y a dans le répertoire, quoi. Et puis bon, pour faire bonne mesure, il y a aussi une grosse louche d'identifiants et de mots de passe. Alors il y a les SSD, les mots de passe de ton Wi-Fi, et puis il y a des tokens qui sont assez utiles, comme celui de Google, qui peut te permettre de te loguer à ton compte, en fait, sans te redemander à chaque fois. C'est des tokens longue durée, c'est des trucs qui permettent de te reconnecter sans avoir à te redemander ton login, ton mot de passe à chaque fois.
Et donc, Dieu sait qu'avec Google, on peut faire quand même pas mal de choses.
Carrément, déjà, bien sûr. Et bon, donc en gros, c'est une ampleur catastrophique. Ce genre de truc permet une surveillance massive. Alors, selon Google, les sites en question ont reçu quand même des milliers de visiteurs par semaine pendant plus de 2 ans. Donc ça concerne pas mal de monde. Et donc, pour surveiller qui, c'est vrai que selon TechCrunch, qui aurait interviewé une source proche du dossier, mais pas directement Google, hein, ça serait une initiative chinoise pour surveiller les minorités ouïghours. Alors, donc Google ne le dit pas. Bien sûr, n'importe qui visite le site va être infecté, mais bon, voilà, quel site c'était, ça n'a pas été révélé par Google, donc bon, probablement, ils sont peut-être plus... il y a plein de manières d'amener quelqu'un à cliquer sur un lien, il y a plein de manières de cibler les victimes aussi. Donc Forbes va dans le même sens, et il rajoute qu'en plus d'iOS, y a Android et Windows qui ont aussi été ciblés, les pirates vont suivre l'évolution des usages un petit peu, de la population, c'est normal. Et donc toujours, cette source anonyme révèle que le même site web peut injecter des implants dans des smartphones Android ou des PC Windows sans aucun problème. Donc on aura affaire à une campagne de surveillance qui aura été très organisée, très ciblée et en fait beaucoup plus large que ce que Google a révélé pour l'instant. Et apparemment pour ramasser le plus d'infos possible sur une population qui est, on le rappelle, déjà très surveillée en Chine. Alors les Chinois n'ont pas encore commenté l'affaire.
Bon, c'est inquiétant, et puis ça laisse entreapercevoir le fait qu'il y a peut-être aussi d'autres failles zero day. On le rappelle peut-être, juste pour repréciser, quand on parle de failles zero day, c'est que ce sont des failles qui sont dévoilées et qui n'ont pas été corrigées. Normalement, l'éthique dans, on va dire, les tests de sécurité des différents dispositifs en ligne amène à avoir une période de confidentialité où, évidemment, on va transmettre la faille à l'éditeur pour qu'il la corrige. Et quand on parle de faille zéro day, c'est une faille qui est exploitable immédiatement et l'éditeur n'a pas été tenu au courant en amont pour la corriger. Donc, sur iOS... c'est corrigé, j'imagine aussi que sur Android et Windows ça l'est aussi, je sais pas si j'avais moi j'avais pas vu la précision en tout cas pour Android et Windows, je sais pas si tu l'as vu toi Guillaume, mais c'est corrigé.
Pour l'instant on n'en sait rien en réalité parce qu'il y a une faille de WebKit qui permettait d'amener les implants à exploiter tout un tas de failles qui étaient déjà connues, donc qui n'étaient pas forcément des failles zéro day ensuite si tu veux, par dessus. Cela dit, il y a une forme d'officieuse, enfin c'est un petit peu officieux les infos sur Windows et Android, puisque Google n'a parlé pour le moment que, enfin en tout cas à l'heure où on vous parle, que des failles iOS. Donc je ne peux pas savoir.
Bon, eh ben, si on a du nouveau, on vous le dira, et je pense qu'il y aura forcément d'autres news sur ce sujet qui vont tomber dans les jours ou les semaines à venir, nul doute qu'on en reparlera. Allez, on enchaîne en tout cas avec la toute première rubrique, mais vous allez voir que tout cela est quand même un peu lié parce qu'on va continuer à parler de piratage, avec, donc, en tout cas dans cette première rubrique, une première news qu'on va détailler ensemble. En l'occurrence, il ne s'agit pas d'un piratage d'une peuplade ou d'une population ou de manière généralisée, mais bien spécifiquement d'une personne, et ça la fout toujours un petit peu mal quand ça arrive, mais c'est le CEO de Twitter, donc Jack Dorsey, qui s'est fait pirater son compte Twitter. Alors les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés, mais là en l'occurrence, c'est le compte de Twitter de Jack Dorsey qui a diffusé pendant quelques minutes, je crois que c'est de l'ordre d'une dizaine de minutes, des propos pas très 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 respectables, des propos même carrément illégaux d'ailleurs, et le problème pointerait pas tant du côté de Twitter, mais viendrait de l'exploitation de la carte SIM. Donc c'est une méthode de piratage qui existe et qui est connue, hein, qui consiste à détourner la réception des SMS de confirmation quand on se connecte sur un site, par exemple, évidemment, pour les sites qui permettent la double authentification. Et l'idée, c'est d'exploiter le fait qu'on puisse rediriger ces messages sur des cartes SIM qui ne sont pas la carte SIM originale. Ça pose d'ailleurs la question de la sécurité de la carte SIM en tant que telle, qui est franchement à déplorer, quoi. Mais bon, on ne l'apprend pas avec ce sujet, mais là, ça la fout d'autant plus mal que c'est le CEO de Twitter qui est concerné, Guillaume.
Oui, Jack Dorsey. Bon, en fait, tu sais, le cornier serait le plus mal chaussé, mais enfin, ça va, c'est pas le PDG de Kaspersky ou, tu vois, ou d'Avast.
Ouais, c'est vrai, ouais, t'as raison, ça serait pire. Pire, ouais. Ouais.
Mais bon, c'est vrai que pendant 15 minutes, il a tweeté des insultes, et bon, il a 4,2 millions de followers, hein, presque autant que tes cafés. Donc, ça s'est vu, évidemment, quand il a commencé à poster ça. Alors, évidemment, ça ne doit pas être facile de hacker Jack Dorsey. C'est vrai qu'il faut savoir qu'il y a un service qui permet de tweeter d'un téléphone, pas smart, en fait, en envoyant des SMS en numéro spécial, donc n'importe quel téléphone peut le faire. C'est le service qui s'appelle Cloud Hopper, et donc ça lie ton numéro de téléphone à ton compte. Et donc, de tweeter sur le compte de Jack, c'est possible en tweetant via le numéro de téléphone de Jack. Voilà, mais déjà, je fais que déplacer le problème parce que j'ai pas le 06 de Jack. Mais les gars de la Chuckling Squad, qui donc sont nés malins, hein, puisqu'ils ont détourné la SIM, effectivement. Apparemment, ils sont habitués. Ils ont déjà fait ça une dizaine de fois. Ce sont des spécialistes de l'arnaque à la carte SIM, en particulier avec le prestataire AT&T. Bon, ils ont peut-être un contact dans la boîte qui oublie certains détails de sécurité, on va dire. Mais bon, comme tu dis, au-delà de la blague, c'est une illustration du fait que finalement, le SMS qu'on utilise volontiers dans l'identification à deux facteurs, pour tout un tas de services, bah, c'est peut-être pas aussi sûr qu'on l'imagine, hein, puisque la carte SIM elle-même, en fait, elle est pas si sûre qu'on imagine non plus, quoi. Donc si elle est compromise, le numéro est compromis et c'est cuit, comme tu disais.
Et d'ailleurs, il y a des directives légales, hein, qui visent à empêcher ou mettre fin au fait que, par exemple, les paiements en ligne passent par une confirmation par SMS. C'est la directive européenne DSP2, hein, sur les paiements, qui vise à remplacer cet envoi de SMS par exemple, une notification sur une app mobile où on doit se loguer, éventuellement avec des éléments de biométrie quand il y a des capteurs d'empreintes digitales ou de reconnaissance faciale pour valider les paiements. Donc on voit bien que le SMS est une limite. Si vous avez la possibilité d'utiliser l'authentification en deux facteurs, évidemment, faites-le, on peut que vous y encourager. Mais surtout, si vous avez la possibilité de choisir entre une application d'authentification comme Google Authenticator ou n'importe quel gestionnaire de mot de passe qui a pignon sur rue, faites-le plutôt que l'envoi par SMS. C'est Telegram, pendant qu'on est dans les applications comme ça où on peut s'envoyer des messages courts. Telegram, cette application de messagerie qui concurrence quelque part WhatsApp et Messenger, se retrouve un petit peu sous la lampe des projecteurs de l'actualité, parce que un problème a été identifié sur la manière dont les personnes pouvaient camoufler leur numéro de téléphone. Alors, pour la petite anecdote, sur WhatsApp, par exemple, quand vous créez un groupe, vous n'avez vraiment pas le choix. Vous êtes obligé de dévoiler à l'ensemble du groupe votre numéro de téléphone. Vous n'avez pas la possibilité de le masquer. Et en l'occurrence, sur Telegram, il y a la possibilité, à la base, de masquer son numéro de téléphone dans les conversations et dans les interactions qu'on peut avoir avec vous. Sauf que il y a quelque chose d'assez ballot qui a été identifié, c'est qu'il suffit qu'un autre appareil ait le numéro de téléphone de stocker votre numéro de téléphone et qu'il soit synchronisé avec Telegram, et là, eh ben, le contact devient visible, ce qui est un peu un comble, et c'est ce qui a été pointé du doigt, notamment à la lumière des événements qui ont lieu actuellement en Chine et à Hong Kong, Guillaume.
Oui, bah c'est vrai que ça se passe pas bien en Corée, hein. Ça fait presque deux mois quand même, hein, que les militants pro-démocratie se mobilisent. C'est vrai que ça peut être dangereux. D'ailleurs, ils utilisent des applis chiffrées comme Telegram, mais aussi des applis Bluetooth peer-to-peer, comme Bridgefy, par exemple, dont j'ai appris l'existence. C'est assez marrant.
Je connaissais pas du tout.
L'usage a explosé ces derniers jours. Bridgefy, ça a pas besoin d'infrastructure. Ça crée un réseau mesh, et les messages, en fait, sont relayés par tous les clients. C'est du Bluetooth. Donc, en gros, t'envoies un message à quelqu'un qui est autour de 30 mètres de toi. Si c'est pas le cas, le message, goûter jusqu'à ce qu'ils trouvent son destinataire ou pas. Bon, malheureusement, dans
excellent.
Tous les cas, ça n'utilise aucune infrastructure, c'est complètement décentralisé, c'est assez marrant.
On en avait parlé, hein, des communications décentralisées, on imaginait qu'Apple pourrait proposer ça dans les iPhones ou Android,
on va en reparler plus tard, hein, tu utilises. Mais c'est vrai que Telegram avait donc un bug, enfin, les militants appelaient ça un bug, comme tu dis, en fait, c'est juste une feature, hein, comme tu le dis, c'est une feature qui se révèle être une faiblesse dans ce cas précis. C'est vrai que c'est un groupe de discussion publique avec numéro caché, mais par exemple, qu'un gouvernement synchronise, disons, des milliers de numéros sur Telegram, ben certains seront matchés avec les participants de la discussion. Donc après, si tu peux avoir par le prestataire téléphonique le nom associé au numéro, ben c'est bon, tu sais qui c'est, et puis il n'y a aucun problème. Et donc, ben ça a été utilisé apparemment, hein, c'est une faiblesse qui est apparue dans le forum de discussion hongkongais, qui a finalement été entendue par Telegram, puisqu'il y a une mise à jour, qui, donc, d'après Reuters, qui va résoudre le problème. Alors c'était pas gagné, parce qu'au début, effectivement, ils n'ont pas considéré ça comme un bug. En fait, c'est même une fonction qui est plutôt utile, si on n'est pas dans des circonstances critiques. Ouais. Quoi. Donc finalement, la balance a penché en faveur des manifestants, donc il y aura un niveau de protection supplémentaire dans la prochaine version de Telegram. Hein. Et bon, puisqu'on en parle de Telegram, le gramme arrive, ça y est.
avant le kilogramme.
Ça y est, ben oui, on avait commencé à parler de la crypto Telegram en 2017 et on avait parlé de la grosse ICO, hein, qui avait rapporté 1,7 milliard de dollars et qui devait faire du gramme un poids lourd. Hein. Pourtant, depuis, on ne peut pas dire qu'on ait eu des tonnes d'infos sur le gramme, mais on sera bientôt fixé, hein, puisque voilà, il arrive en octobre, ça y est. Donc après les déboires de Libra, hein, on a vu que c'était quand même un domaine sensible, les cryptos comme ça. Mise au point par des gros groupes, à tel point qu'on aurait pu craindre le gramme miné, mais comme il est totalement décentralisé, bon, peut-être que ça pourrait mieux se passer. Donc écoute, on verra assez rapidement comment il se mesure à la balance de Facebook.
Tu sais que d'un point de vue extérieur et très naïvement, sans avoir une expertise particulière sur le sujet, évidemment, je crois beaucoup plus en une proposition qui serait portée par Telegram, parce qu'il y a des ressources derrière, et puis ils ont prouvé qu'ils pouvaient maintenir quand même un service de messagerie assez performant dans le temps, face à des propositions comme Facebook, qui va se faire surveiller, pour pas dire d'autres termes, très massivement par les États. On en a déjà parlé dans les précédents épisodes, là où Telegram risque de pouvoir peut-être un peu plus facilement passer en douce dans les usages. Bon, évidemment, ce ne sera pas demain la veille qu'ils remplaceront complètement les systèmes bancaires, mais
c'est sûr. D'ailleurs,
j'y crois beaucoup
plus.
Il faut
voir aussi que Libra, lui, il voulait éviter l'instabilité qui est souvent inhérente aux crypto-monnaies, et on ne sait pas vraiment comment le gramme va fonctionner et s'il va réussir à être stable, tu vois, comme il faut. Donc on verra, ça reste une grosse interrogation, mais bon, voilà, on arrive, on verra ça à la fin de l'année, quoi, je pense.
Suspense. On reparle un petit peu de Google. Alors c'est assez intéressant parce qu'on avait dit dans le dernier épisode que le règlement intérieur des collaborateurs Google avait évolué. Et alors là, à quoi ça sert, Guillaume, de faire évoluer le règlement?
Mais ouais, ils avaient pourtant prévenu, les employés de Google, pas de politique au bureau. Non, mais
c'est fini.
C'est pas le bistrot du coin, quoi. On n'est pas là pour taper le carton. Mais bon, tu les connais, ces gauchistes, hein, ils ne peuvent pas s'en empêcher. Donc voilà, les voilà TIPA qui demandent carrément des détails sur le service cloud qui est fourni par Google à la police aux frontières. Bon, quoi, c'est-à-dire que les douaniers n'ont plus le droit d'utiliser Google Docs. Bon, en fait, ce n'est pas vraiment une nouveauté, puisqu'il y a le USCIS, donc c'est le US Citizenship and Immigration Service, qui a un contrat de 750 000 dollars avec Google. Et la boîte travaille aussi avec ICE, Immigration and Customs Enforcement, et donc dernièrement avec le CBP, la police aux frontières, c'est le Customs and Border Protection. À la base, il n'y a rien de bizarre, hein, finalement, à ce que Google et Amazon aussi, en passant, soient prestataires cloud pour des agences gouvernementales, hein, y compris pour celles qui s'occupent du contrôle aux frontières et de l'immigration, pourquoi pas. Sauf que bon, le problème, c'est que le pays est dans une période particulière où sa politique d'immigration ne fait pas l'unanimité, tu vois. Donc, d'aucuns diraient qu'elle contreviendrait à certaines valeurs qui sont importantes là, pour certaines personnes. Donc, commence à devenir vraiment délicat. Donc, résumons ça par le fait que le USCIS a éliminé « America's promise as a nation of immigrants » de sa devise. Voilà. Donc, en gros, l'Amérique n'est plus une nation d'immigrants. C'est terminé. Bon, bref, voilà. Exactement quel service de Google offre à ses clients, de toute façon, c'est pas clair. Cela dit, des employés ont fait une pétition qui a reçu 1500 signatures pour le moment et qui demande de cesser de collaborer avec le CBP ou l'ICE et de se rendre ainsi complice de leurs actions, hein, qu'ils considèrent comme incompatibles, je pense, avec le « Don't be evil » de Google, qui fut un temps le motto de Google.
J'ai du mal à me faire une réalité. En fait, bon, je suis tout à fait évidemment disposé à croire hein, qu'il y a des voix qui s'élèvent contre la politique d'immigration aux États-Unis. Je pense qu'il ne faut évidemment pas être naïf. Mais j'ai du mal à comprendre ce qui a fondamentalement changé et dans quelle mesure ça a changé. Bah, j'habite pas aux États-Unis, j'ai pas de retour hein, précis sur le sujet. Mais je suis évidemment tout à fait disposé à écouter si jamais vous avez des retours à ce sujet. J'étais marqué que dans la dernière saison de Orange is the New Black, qui est évidemment une fiction, hein, ça parle énormément de la situation des personnes qui sont en situation irrégulière aux États-Unis. Alors, je ne sais pas si c'est juste un thème de la série qui a été choisi là pour la dernière saison, ou si c'est effectivement un sujet qui fait l'objet de beaucoup de discussions aux USA. Je pense que c'est évidemment ce deuxième cas qu'il faut retenir. Mais je serais très curieux d'en savoir un petit peu plus sur ce qui a changé, quels sont les chiffres, et j'avoue que je ne me suis pas penché sur le sujet.
Il y a des gros scandales, enfin, c'est qu'on a eu les gros scandales de séparation de famille, par exemple, et tout ça. Dernièrement, il y a aussi la sélection par le fric, hein, il me semble, non. Enfin, je veux dire, où tu prends pas les immigrants qui vont être une charge pour la société, entre guillemets, donc à définir.
Pas les pauvres.
Et c'est voilà, donc il y a des différences de politique comme ça, par exemple, qui ont été particuliers, les séparations de famille où t'as les gamins qui restent et les enfants qui partent ou l'inverse. C'est des trucs qui ont été très très mal perçus, à raison, en fait. En tout cas, bon, voilà, on n'est pas là pour parler de la politique d'immigration américaine, mais voilà, ces trucs-là, dans l'actualité, si tu veux, ont fait beaucoup de bruit, et c'est vrai que Google s'en rend complice du point de vue de certains employés, alors fournissant des services cloud, et du coup, ils sont pas contents. Voilà, c'est des questions très délicates, parce qu'effectivement, est-ce que Google doit être neutre, ou est-ce que c'est une décision politique d'aider, entre guillemets, le gouvernement, sachant que s'il ne le fait pas, il y a très certainement d'autres boîtes qui le feront. C'est quand même c'est extrêmement compliqué comme problème, mais bon, finalement, c'est aussi assez intéressant à relier.
Ouais, on creusera si on peut, et si vous avez des retours, faites-le. Le problème, c'est que ces entreprises ont déjà fait des contrats par le passé, depuis de longues dates, avec le gouvernement américain, mais évidemment, dans quelle mesure est-ce que c'est justifiable quand on n'est plus moralement en phase avec le sujet ? C'est vrai que ce soit le cas. Allez, on continue à parler justement de ce qui se passe avec ces sociétés, avec les autorités américaines. On descend un petit peu d'un cran et on ne parle plus d'immigration, mais on va parler de sécurité, parce qu'il y a eu un cas de braquage d'une banque où, bah, grosso modo, donc deux voleurs se sont introduits dans la banque pour faire un braquage. Ils sont repartis avec beaucoup de cash, des tiroirs du coffre et même les clés du coffre, et on les a pas retrouvés. Et les autorités se sont tournées vers Google tout simplement pour essayer d'identifier les smartphones qui auraient été présents et qui auraient, au moment de l'événement, au moment du braquage, et pour lesquels il y aurait des mouvements qui auraient pu correspondre avec ceux de voleurs, Guillaume.
Ben oui, ça y est, hein, au moment où t'es arrivé, hein, tu demandes à Google, aujourd'hui, tu demandes à Google tout et n'importe quoi. C'est comment faire une confiture de pastèque, comment parler des filles en soirée, est-ce qu'on dit tardigrade ou tardigrade, par exemple. Ou bien encore, c'est qui les mecs qui ont dévalisé la banque de Milwaukee le 13 octobre 2018. Bon, voilà, effectivement, c'est vrai qu'ils avaient bien prévu leur coup, ils ont mis 7 minutes, leur visage était bien caché. Et bon, bah, finalement, la police s'est tournée vers Google, hein, puisque le reste n'a pas marché, pour tracer tous les mobiles Android présents dans un rayon de 30 mètres autour du braquage. Bah, c'est ainsi que des dizaines de passants qui passaient, en fait, hein, par là, se sont vus pris dans les filets, quoi. Donc, c'est une technique de chalutier, carrément, qui est pourtant totalement légale, selon un tribunal, en tout cas de l'État, et voilà, il y a des dizaines de demandes semblables qui ont été déposées dans divers États, et ça plaît pas trop aux partisans des libertés civiles, hein, parce que ils apprécient moyennement de voir la géolocalisation de tout le monde, enfin de n'importe qui, récupérer la louche comme ça, parce que bon, après tout, la Cour suprême avait reconnu que c'était le domaine strict de la vie privée de chacun, la position géographique. Et bon, le pire, c'est que c'est même pas clair que ce soit efficace, puisqu'à Milwaukee, comme le cas est toujours en cours depuis presque un an, on n'a pas vraiment d'indication que c'est permis de coincer les braqueurs. Pourtant, c'est vrai que ces collaborations entre les GAFA, voilà, se généralisent. Hein, y a Ring aussi, qui est la sonnette connectée. Bon, en fait, c'est un interphone vidéo, hein, tout simplement. Hein, c'est commercialisé par Amazon et ça commence à se transformer petit à petit en réseau de vidéosurveillance, puisque Amazon travaille déjà avec 400 services de police auxquels il donne accès avec le consentement des propriétaires, hein, quand même. Hein. Aux enregistrements donc vidéo auxquels ils auraient besoin dans le cadre d'une enquête, hein, si jamais ça se passe dans le coin, quoi. Et donc oui, ces vidéos pourraient être utiles, hein, mais bon, on se plaint déjà de l'omniprésence des caméras de surveillance, donc là on en rajoute une couche, il y a quand même déjà 10 millions de Ring installés, et ces vidéos pourraient profiter bientôt de la reconnaissance faciale, puisque BuzzFeed a appris que Ring Ukraine, donc la branche ukrainienne de Ring qui elle-même appartient à Amazon, travaillerait sur des technologies de prévention semi-automatique de crimes et des algos de reconnaissance de tête et de visage. Donc c'est des recherches qui remontent à 2018 d'ailleurs au moins, donc bon, pour l'instant il n'y a pas de projet officiel d'utiliser ça tout de suite. Hein. Ça semble quand même contradictoire avec ce que dit Amazon au Washington Post, hein, puisque Ring n'utilise pas de reconnaissance faciale, elle n'utilisera pas, en tout cas dans un futur proche. Donc voilà, à voir, bientôt tu recevras peut-être directement une prune parce que la caméra de ton voisin t'aura repéré en double fil, tu vois, c'est, je sais pas...
Bah, ça va plus vite,
le meilleur des mondes.
On est averti plus vite. Bon, et puis alors, pour la petite anecdote, c'est rigolo parce que normalement, dans le flux, au moment où vous écoutez ce podcast, bah, vous avez l'épisode précédent qui est l'épisode de Tech Café Domotique qu'on a enregistré avec Antoine et Gaëtan, où Antoine nous a parlé longuement de son été avec sa sonnette connectée Ring. Donc, évidemment, vous avez maintenant une vision du meilleur des deux mondes, l'usage à titre individuel, tout ce que ça peut permettre, et puis en même temps, l'envers du décor et de ce qu'on peut craindre si le sujet devait trop s'étendre avec les autorités. Alors justement, on parlait de reconnaissance faciale, Guillaume. En Europe, il y a des volontés de la part de l'Union européenne de faire évoluer les dispositifs réglementaires. Alors ils sont à l'aise, hein, puisqu'ils ont mis en place le RGPD, qui somme toute semble avoir eu globalement un bon écho et je pense va finalement aussi beaucoup dans le bon sens par rapport à la consommation au numérique. L'idée, ce serait tout simplement de faire pareil avec un autre projet de loi qui étendrait le droit des citoyens européens sur les données liées à l'intelligence artificielle, et on peut y voir vite, très très vite, évidemment, l'identification des données biométriques. Est-ce que tu penses que c'est facile de réglementer ce genre de choses, Guillaume ? Moi, je reste un peu dubitatif sur la facilité qu'on puisse avoir de réglementer ce genre de dispositif.
Oui, effectivement, c'est vrai que le truc, c'est donner un droit de regard, hein, donc des données de reconnaissance faciale.
C'est le cas de le dire.
Donc voilà, ça serait compliqué, c'est le cas de le dire exactement. Donc ça serait effectivement compliqué, donc je sais pas, peut-être qu'il faut alors... parce que là, tu vois, c'est non, maintenant que tu vas sur les... chaque fois que tu vas sur un site, il faut cliquer pour consentir. Ah, donc là, ouais, je sais pas, il faudra peut-être sourire ou faire une grimace particulière pour consentir à ce que tu sois utilisé pour la reconnaissance faciale. Non, blague à part, je pense que c'est quand même important de se pencher sur la question, quoi, et d'essayer de voir un petit peu ce qu'on peut en faire. Après, facile, non, certainement pas. D'ailleurs, le projet de loi sur les implications éthiques et humaines de l'intelligence artificielle, je cite, c'est un gros projet, quoi. C'est un truc qui, de toute façon, qui s'envisage dans la durée, parce que pour l'instant, l'IA, elle sait faire ça, dans 2 ans, elle saura faire autre chose, dans 10 ans, elle saura faire complètement autre chose. C'est, voilà, c'est un truc, je pense que c'est un boulot, voilà, c'est un peu comme le mariage, tu vois, c'est un travail de tous les jours.
C'est beau, l'analogie est magnifique. Très bien, bon, puis t'as raison, alors, sur les pop-up pour consulter les sites web. En fait, je trouve qu'il y a le même syndrome que manger-bouger, c'est-à-dire que c'est le genre de message qui s'affiche tellement automatiquement. Alors, je sais pas toi, Guillaume, livre-nous quelques détails sur ta vie telle que tu l'as.
Écoute, moi, j'ai...
Comment tu fais ? Tu cliques toujours sur oui ou pas ? Comment tu fais ?
Ben, en fait, ça dépend. Mais c'est ça qui est horrible, hein, c'est que je suis humain et voilà. Donc, en gros, le RGPD, je trouve ça bien dans l'idée, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, parce que moi, je change beaucoup de machines, j'ai plein de machines différentes. Et donc, à chaque fois, je suis sur une nouvelle machine et que je vais sur un site web qui m'a jamais vu avant, il me dit veuillez consentir à ceci ou regardez. Alors, bon, des fois, t'as pas le choix. De toute façon, t'es obligé de consentir, sinon, tu vas pas sur le site web. Ouais. Soit, effectivement, tu peux essayer de débloquer des trucs, mais en général, c'est chiant parce que tu dois dire non, après tu dois décocher 18 ou 48 boutons pour chaque truc. Et donc, c'est très casse-couille. Et au final, quand t'as pas le temps, quand t'es énervé, tu fais rage quit, c'est-à-dire tu dégages et tu vas ailleurs. Ou alors, effectivement, tu dis oui, et c'est vrai que j'ai tendance à dire oui assez souvent, en fait. Après, il y a des endroits où je dis oui, bon, en connaissance de cause, c'est des sites que je connais bien, où je vais souvent, et bon, ben voilà, je vais après. Mais parfois il y a des sites où je vais qu'une fois et je dis oui quand même parce que bon, je veux lire l'article et puis c'est fini, quoi, tu vois, c'est c'est compliqué, c'est pas idéal. Mais bon, je me dis que ça au moins, si tu veux, la vertu de sensibiliser les gens au fait que bah, s'ils te demandent ça, c'est que forcément t'es traqué, quoi, ouais. Et que donc voilà, ça peut aider à moi, ça.
Je me demande dans quelle mesure les navigateurs pourraient pas aussi être de bons acteurs là-dessus. Bon, on sait que Mozilla propose souvent des choses, mais dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait pas mettre en place, est-ce que ce serait compatible avec les réglementations, j'en sais rien, mais mettre en place une politique générale, c'est-à-dire de ce qu'on souhaite et de ce qu'on ne souhaite pas de la part des sites.
Sur Firefox, il y a une extension qui s'appelle « I don't care about cookie » qui fait ça, je pense. Hein.
Ok, ouais, d'accord.
Elle dit, en fait, je pense qu'elle dit oui globalement par défaut.
Ah oui, d'accord. Oui, alors moi, j'étais pas forcément aussi radical, mais j'étais en train de dire que tu pourrais très bien choisir que t'acceptes telle typologie de cookies de la part des sites en général, ou tu refuses ces types-là, et puis tu peux mettre des exceptions en fonction des noms de domaine. Mais bon, je sais pas si ce serait simple pour le grand public.
C'est pas très simple, comme ça.
Si jamais les navigateurs, les développeurs de navigateurs m'écoutent, qu'ils n'hésitent pas, on peut continuer à en parler. La police des frontières qui passe son temps sur les réseaux sociaux, Guillaume, ça fait pas très sérieux quand même.
Ben oui, on parle de vie privée et tout ça, alors bon, je veux dire, à ton avis, est-ce qu'on peut se faire refuser son entrée aux États-Unis parce qu'un de tes potes Facebook est pro-palestinien ? Eh ben oui, apparemment. Puisque bon, il y a un nouvel étudiant à Harvard, il est libanais, il a atterri à Boston, il s'est fait intercepter par la police aux frontières, probablement parce qu'il est libanais, et que ça se voit, son PC et son téléphone ont été épluchés pendant qu'on lui posait des questions sur ses amis sur les réseaux sociaux.
Il me semblait qu'il était palestinien, mais je me trompe peut-être dans l'histoire.
Oui, il est dans l'appareil. Oui, il est pro. Alors, soit il habite en Palestine, je crois qu'il était libanais, il doit habiter en Palestine ou l'inverse.
Ah oui, pardon.
Ça,
ouais. Okay.
Bon, je sais plus exactement, mais voilà, bref, effectivement. En tout cas, effectivement, il doit avoir des potes palestiniens, quoi, globalement. Voilà quoi. Donc, alors évidemment, parmi ses potes, il y a certains qui s'opposaient à la politique américaine, et donc du coup, son visa a été révoqué. Donc en fait, non seulement on peut te demander de débloquer ton téléphone, non seulement on peut se balader tranquillement sur ton PC, mais en plus on peut regarder ta vie Facebook et celle de tes amis. Je sais pas toi, mais je trouve ça commence à devenir un petit poil invasif quand même tout ça. Hein. Donc je crois que je vais plutôt aller en Suède qu'aux États-Unis moi bientôt. Hein. Bon, enfin si tu veux avoir un visa, donc vaut mieux que ta présence en ligne soit très policée, tu vois. Alors bon, autant pour la sacro-sainte liberté d'expression, quoi. Mais bon, bien sûr, la BCP ne commande pas, donc on est sûr de rien, en particulier, pas de combien de cas de refoulement on a pu avoir. Et déjà, d'ailleurs, ils sont pas censés avoir accès à des informations qui sont hors des appareils, donc hors du téléphone ou de l'ordinateur. Mais bon, il reste toujours ce qui en cache, au pire, de toute façon, donc tu peux toujours voir quelques trucs. Ou juste enfreindre les règles, et puis basta. En tout cas, pour le coup, voilà, l'efficacité de ce genre de manœuvre n'est pas claire. Hein. Parce que bon, en gros, les terroristes, je pense pas qu'ils utilisent leurs identités réelles pour parler du djihad, quoi, tu vois. Bon, on l'a cru, hein, avec le massacre de San Bernardino, mais le FBI a confirmé que c'était faux, hein, que l'auteur du massacre, en fait, utilisait pas ses véritables identités. Bon, il y a un rapport sur le Social Media Monitoring du Brennan Center for Justice, qui indique que la collecte par le ministère de l'Intérieur de grosses quantités de données sur les médias sociaux, comme ça, a une efficacité très limitée sur la détection des éléments vraiment radicaux. Bon, donc, bon, à voir, je trouve ça... Enfin, moi, personnellement, c'est vrai qu'aller aux États-Unis et me faire fouiller... c'est une fouille au corps numérique, quoi. Je trouve ça vraiment invasif.
J'arrive à me demander, en plus, dans quelle mesure, quand tu es mal intentionné... on parle d'actes de suspicion de terrorisme. Hein. Est-ce que tu vas vraiment emmener un smartphone avec des données comme ça?
C'est sûr. Après, bon, évidemment, vous ne serez pas forcément fouillé. Enfin, ils ne fouillent pas tout le monde. Oui. Vous serez fouillé si vous avez l'air suspect. Bon, voilà. Oui. Cela dit, c'est vrai que si vous avez l'air suspect de base, pour une raison ou pour une autre, c'est pas très agréable.
Faites un effort. Ayez l'air moins suspect.
Ayez l'air
déjà.
Moins suspect, pas... exactement. Voilà. Si flotter, l'air compliqué. De rien comme ça, je sais pas.
Voilà. Soyez à l'aise. Et pour dire aussi que finalement, on dénonce, ou plutôt on pointe du doigt souvent ces types de situations pour la Chine, mais on se rend compte que l'actualité nous montre en ce moment qu'il y a beaucoup de parallèles à faire entre ce qui se passe au niveau de la Chine et des États-Unis, paradoxalement. Il y a des citoyens dont on n'a pas parlé, Guillaume, ce sont les enfants. Et les enfants, il y a un fléau dans la vie et il faudra qu'on finisse de le dénoncer une bonne fois pour toutes, c'est YouTube Kids. Donc moi j'avais parlé de YouTube Kids il y a de ça quelques temps, parce que j'avais mon fils qui avait pris peur en tombant sur une vidéo sur YouTube Kids d'un requin gonflable et ça l'avait traumatisé, le pauvre. J'en rigole encore, mais lui ça a pas dû le faire rire. Mais donc j'aime pas trop évidemment YouTube Kids, mais ça a évolué YouTube Kids ces derniers temps. En séparant vraiment la plateforme de YouTube, Et il y a des nouveautés, notamment l'analyse et la production du contenu visionné par les enfants. Alors là, t'as envie de te dire, c'était pas le cas avant. Bon, bref. En tout cas, YouTube a mis ça en place pour YouTube Kids. Donc en gros, c'est quelque chose de, disons, mieux surveillé. Mais problème, il y a une amende et une plainte de la FTC aux États-Unis qui a été adressée à YouTube parce qu'ils enfreignent la loi sur la protection de la vie privée en ligne des enfants. Et c'est une amende de plus de 150 millions de dollars. Alors, c'est comme toujours hein, sur ce type d'amende et ce type de montant, c'est qu'on trouve ça très important et on peut que se satisfaire du fait qu'il y a des autorités qui travaillent sur ce genre de sujet et qui peuvent infliger ce type d'amende à ces géants-là. Et en même temps, on se dit, par rapport à la hauteur de ce qu'ils peuvent payer, par rapport à leurs ressources, c'est finalement quelque part assez négligeable. Là, problème, hein, ils collectaient les données YouTube Kids sur le visionnage des vidéos sans respecter le RGPD forcément, mais sans respecter tout ce qui doit être respecté pour les enfants, et notamment l'objectif de la collecte des données. Évidemment, c'était pour servir des besoins publicitaires. YouTube Kids, c'est définitivement le mal, Guillaume.
Oui, j'ai pas allé très longtemps, hein, je dois te dire. Mais oui, c'est vrai, comme tu disais, le problème là-dessus, c'est que, y a évidemment 200 millions, ça nous paraît beaucoup à nous, à notre échelle, ça paraît beaucoup à YouTube, en tout cas, il dit que c'est vraiment beaucoup. Mais en réalité, comme tu dis, la puissance financière de ces machines comme YouTube et Google, c'est tellement important que, le Center for Digital Democracy dit, en dessous d'un demi-milliard de dollars, c'était même pas la peine de mettre une amende, quoi, tu vois. Il faut que ce soit, comme on disait pour Facebook, hein, une amende, il faut que ce soit dissuasif. Et là, c'est vrai que 200 millions de dollars pour Google, c'est pas vraiment dissuasif, on imagine.
Et puis à la place de YouTube Kids, il y a tellement de choses. Il y a Netflix, il y a Gulli, et il y a les jeux de société. Il y a les jeux de société. Bon, plein d'idées. Allez, on change un petit peu de rubrique. On va parler peut-être d'usage un peu plus grand public, même si c'est pas forcément que des choses qu'on peut tester ou qu'on peut encore aujourd'hui utiliser. Avec donc une rubrique que tu as savamment intitulée Téléphone Maison. Il y a une application qui buzz énormément en ce moment et qui buzz beaucoup en Chine parce qu'elle est assez incroyable. Je t'avoue que ça donnerait vraiment envie de la tester pour se rendre compte tant les images qui sont restituées dans les différents articles et les différentes vidéos qui montrent ce qu'on peut faire avec, tu pourrais très très bien te dire que ce sont des fakes tellement c'est impressionnant. Qu'est-ce que c'est cette application? Ça s'appelle Zao, donc c'est une application chinoise. Ni plus ni moins de deepfake. Donc vous envoyez votre photo et vous remplacez l'acteur d'une vidéo de film par votre propre trogne. On a déjà parlé du deepfake, Guillaume. On a toujours, depuis pas mal de temps maintenant, émis l'hypothèse que demain on pourra choisir la tête de l'acteur tout au long de la série ou du film qu'on va regarder, voire même se mettre en scène dans le film. Ça y est, ça arrive, Guillaume, au travers de cette app.
Oui, c'est après FaceApp, c'est autour de Zao un petit peu d'être au cœur de cette controverse. Mais en même temps, c'est des effets fun que t'envoies à tes amis, je veux dire. Tu vois, personnellement, envoyer ma tête en Russie à disposition des fermatrolles, ça me paraît être un prix dérisoire à payer pour me voir à 82 ans.
Femme.
C'est vrai, quand même.
C'est pas cher payé.
C'est une expérience à vivre. Imagine si c'était une femme de 82 ans. Zao, oui, c'est donc une app chinoise qui fait encore plus fort. Donc il met ta tête effectivement dans une scène du Trône de Fer ou un film célèbre. En fait, il y a un nombre limité de vidéos, de clips vidéo, c'est-à-dire je pense qu'ils ont ils ont entraîné leur modèle sur un nombre limité de séquences vidéo. C'est pour ça que
celles sur lesquelles ils ont les droits avec les guillemets.
Alors on est en Chine, donc voilà, les droits, exactement. Et puis, surtout, donc ils ont limité pour que ça puisse se calculer assez rapidement. Alors, c'est du deepfake, c'est mieux que du deepfake, en réalité, comme on vous en a parlé, puisque ça peut se faire à partir d'une seule photo. Tu sais que les deepfakes dont on parlait, c'est des trucs où on a une vidéo, effectivement, donc une vidéo porno au début, et puis plein de trucs, plein de photos d'une actrice qu'on a envie de changer dans la vidéo. Le truc, c'est qu'il fallait plein de photos, sinon ça marchait pas bien. Là, ce qui est assez fou, c'est qu'un selfie suffit. Et vous pouvez mettre, en fait, plusieurs selfies. Et finalement, ça marche bien avec un seul, ça marche encore mieux avec plusieurs, et c'est vrai que c'est assez incroyable, puisqu'on est plus proche en fait de la technologie qui permettait à Mona Lisa de chanter, ou de faire des grimaces, on avait parlé de cet algorithme aussi, ou à Rasputin de chanter du Beyoncé, et là c'est à peu près la même chose, sauf que c'est appliqué sur des morceaux de films connus, quoi. Et bon, c'est vraiment très très sympa. Alors je voulais le tester, hein, mais vraiment, sauf que moi je l'ai pas trouvé sur l'App Store. Enfin, je l'ai pas trouvé sur Google Play. Je sais pas s'il est sur l'App Store ou s'il est uniquement en Chine. Je sais pas. Moi, je l'ai pas trouvé en tout cas pour Android.
Hein. Alors. Je t'avoue que j'étais tellement persuadé qu'il était dispo qu'en Chine, parce que c'est ce que j'ai vu un peu à droite à gauche, que j'ai même pas cherché sur iPhone.
Non, mais les illustrations, c'est des photos d'iPhone, donc peut-être que c'est que sur iPhone. D'accord. Ça, je sais pas.
Alors en fait, ce qui m'inquiète, c'est problème... quand je tape Zao, j'ai une application avec des caractères chinois qui est notée 2 étoiles par 7 utilisateurs, mais je suis absolument pas certain que ce soit ça. Ça y ressemble, mais j'ai pas envie d'installer.
C'est pas évident. Mais bon, voilà, effectivement, tu disais, c'est dans la chronique pourquoi, parce que voilà, Zao s'arrogeait les droits complets et totaux. Hein, sur tous les contenus générés par ses utilisateurs, donc ça a fait un scandale et bon, ils ont renversé la vapeur, désormais ils jurent de n'utiliser les photos et les résultats des calculs que pour améliorer le produit, et donc après ils éliminent les photos dès que l'utilisateur le fera sur l'application. Alors, c'est une bonne chose, hein, ça veut dire qu'en gros que l'importance des données biométriques est à trogne en particulier, ça infuse petit à petit dans le grand public et que voilà, les gens regardent et sont plus vigilants, voilà. Enfin bon, moi je me mettrais bien dans la garde de nuit, mais pour l'instant, on n'a pas trouvé l'appli, donc espérons que ça arrive chez nous.
Oui, on a hâte de tester, effectivement. Autre sujet sur les données, en l'occurrence, l'écoute de ce qu'on peut faire sur les assistants vocaux fait un petit peu le cœur de l'actualité des podcasts tech, en tout cas de l'actualité tech en général. Quelques news récentes du côté d'Apple, de Siri, avec des employés qui étaient... salarié par une entreprise qui était commandée par Apple dans le cadre d'un programme qui s'appelait Cosmos, et donc qui avait pour objectif, comme tous les autres, c'est-à-dire de comparer des extraits audio pour voir si ça matchait avec les instructions qui étaient lancées par les utilisateurs. Évidemment, il y a eu quelques témoignages de la part d'employés, sous couvert d'anonymat bien entendu, et selon eux, il y avait évidemment déjà de nombreux déclenchements qui étaient faits de manière accidentelle, en particulier depuis le HomePod. Alors, doit-on en tirer des conclusions sur l'efficacité de la reconnaissance vocale du HomePod ? Je sais pas. Mais en tout cas, il y avait pas mal de déclenchements par erreur. Mais le pire du pire, c'était l'Apple Watch, en l'occurrence, où il y avait des éléments de déclenchement de reconnaissance vocale avec des dialogues particulièrement embêtants, notamment chez le médecin ou dans des cabinets d'avocats, et des enregistrements qui n'étaient évidemment pas du tout souhaités. Et le problème, c'est que selon les témoignages, c'était une pratique relativement courante d'aller explorer les données personnelles des auteurs des enregistrements, puisque c'était quelque chose qui pouvait remonter. C'était les données du carnet d'adresse de l'utilisateur qui avait déclenché l'audio, que ce soit intentionnel ou non intentionnel. Alors évidemment, Apple a pris la parole, il y a de ça quelques jours, à la fin août, avec un communiqué de presse où ils ont réexpliqué leur démarche, mais surtout, ils ont mis en place le fait que, par défaut, ils n'enregistreront pas l'audio et qu'on pourra, de manière proactive et volontaire et intentionnelle, activer l'option de améliorer Siri en faisant écouter nos enregistrements. Et on pourra évidemment en ressortir à tout moment. Et surtout, ils arrêtent d'externaliser ce type de prestation. Et ça me semblait tellement évident quand on est Apple et quand on fait ce genre de choses, de ne surtout pas externaliser ce sujet. C'est déjà problématique de savoir qu'on a des êtres humains qui peuvent écouter les enregistrements alors qu'on ne l'a pas forcément souhaité et qu'on n'a pas forcément été explicitement informé de ça, mais surtout de la part d'Apple qui se fait fort de nous dire qu'il y a les données personnelles qui restent sécurisées chez Apple, c'est un peu gênant. Guillaume, est-ce que tu trouves que la prise de parole d'Apple te convainc sur le sujet ?
Oui, enfin, ça me convainc. Disons qu'ils font exactement pareil que tous les autres, ce qui n'est pas une énorme surprise, faut pas exagérer. Et puis, bon, de toute façon...
Mais c'est plus grave pour Apple, d'accord,
c'est plus grave
en termes
d'image. Apple, parce que Apple a toujours été c'est toujours présenté comme le chevalier blanc de la vie privée. Donc oui, forcément, ça fait bizarre de te dire qu'à Prague, il y a des mecs qui rigolent en regardant les iMessage coquins que t'as envoyés par Siri à ta douce et tendre, et qui rigolent de ça à la machine à café. Ben oui, mais en même temps, on est humain, veux dire, moi je serais je serais pareil, enfin je ferais pareil. Ouais. Je veux dire, je suis là et je 1000 fois par jour, je transcris des textes et des messages qui n'ont pas été compris par Siri, et Dieu sait s'ils doivent être nombreux. Bon, ben, je veux dire, si je tombe sur un truc croustillant, eh ben oui, j'en parle à la machine à café avec mes potes, c'est évident. Et voilà, et bon, c'est aussi évident de se dire, bah oui, ah bah tiens, mais alors lui, il parle de ça, mais attends, mais c'est qui ? C'est ce que ce serait pas quelqu'un de connu ? À qui ça peut être ? Moi, je parie sur... Enfin voilà, bon, c'est normal, c'est normal. Et ça sera pareil chez Apple. C'est juste qu'on espère que ça arrivera pas dans le cadre enchaîné. Parce que, bon, voilà, le truc, c'est que les sous-traitants ont témoigné, donc il y a des trucs qui sont parus dans les journaux, etc. Cela dit, à mon avis, la pratique va pas s'arrêter, hein, ça sera internalisé, mais la pratique va pas s'arrêter, parce que sinon, bah, Siri, il va pas faire de progrès, pas cher.
Est-ce que tu avais relevé, toi, est-ce que tu as hâte de te commander des Nike qui se lassent toutes seules, parce que tu vas pouvoir les commander avec Siri, Guillaume ?
Oui, 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 bah, ça fait partie de ces moments quand tu découvres ce genre de news, où tu te dis que l'humanité est fichue, quoi, ça y est, c'est mort, c'est terminé, enfin, je veux dire, c'est... Parce que là, on a quand même atteint un sommet, tu vois, de futilité, vu que Nike a, donc, qui a déjà sorti hein, des chaussures qui se lassent toutes seules, pas mon gros qui se sert toute seule, voilà exactement. Donc, des chaussures qui se lassent toutes seules, déjà en soi, c'est quand même un truc. Bon,
à part pour ceux qui sont particulièrement amoureux et nostalgiques de Retour vers le futur, mais je suis pas
voilà,
sûr.
Voilà,
que...
mais je pense que ça part de là. Au début, ça partait de là. Enfin, tous les cas, il y a les Adapt URA, je sais même pas comment on prononce ce truc, URH, URAIC, je sais pas, on s'en fout. Toujours dit que ces trucs qui donc se lassent toutes seules ont en plus deux LED du plus bel effet, que, dont tu peux changer la couleur sur la semelle. Donc
magnifique.
Là, tu passes vraiment inaperçu. Et alors, le fin du fin, c'est que tu peux interfacer l'app qui te permet de commander tes chaussures. Oui, 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 une app qui te permet de commander tes chaussures. Eh bien, tu peux l'interfacer, donc, cette app avec Siri, et tu peux donc demander, via ta montre, par exemple, à Siri de délacer tes chaussures. Et là, je pense qu'on est dans le summum total de la classe, ou de la civilisation de la futilité, je sais pas exactement, mais c'est quand même très beau. Cela dit, il faut pas taper trop sur Nike, puisqu'il y avait aussi d'autres trucs, hein, puisqu'il y avait, il y en avait d'autres, qui avaient, attends, je sais plus lequel, mais je crois que pour $350, tu pouvais avoir des chaussures Android qui se lassaient toutes seules. C'est un autre truc.
Magnifique.
Des sneakers.
Comme quoi, on leur jette la pierre.
Mais... Non, vraiment, c'est, écoute, je sais pas, ça te fait envie, toi, ce genre de truc, des chaussures qui se lassent toutes seules à la voix, comme ça?
Non, j'en ai rien à péter, et en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que c'est pas tant la futilité de la démarche, moi, qui marque, parce que après tout, on serait dans un monde où la reconnaissance vocale, elle serait installée, que ce serait une technologie qui aurait fait ses preuves. À la limite, que tu lasses tes chaussures, que ça te cure le nez, que ça te coiffe, ou que ça te suggère des vêtements. Moi, ça m'irait plutôt bien sur la base des instructions. Mais ça marche très mal, la reconnaissance
c'est ça,
vocale aujourd'hui.
Ça pourrait marcher très, très mal. Tu pourrais avoir du mal à enlever tes chaussures à cause de ça.
C'est ça. Elle pourrait rester coincée. Il pourrait même peut-être te faire mal, va savoir. Donc non, je suis pas forcément enthousiasmé.
Oui. Demain, un bug qui te serre tellement les pieds que tu fais une nécrose et qu'on doit t'amputer à cause de tes sneakers Bluetooth, je sais pas.
Bah, c'est pas l'avenir radieux que tu décris là, Guillaume. L'avenir radieux, il est peut-être plus pragmatique et il passera peut-être par d'autres choses quand on parle d'Apple. C'est que Apple a mis en place un nouveau programme. Alors moi, je trouve ça plutôt cool, mais comme beaucoup de choses de la part d'Apple, on les trouve cool parce qu'il y a eu des verrouillages assez dingues avant, et puis il y a toujours à creuser derrière les news enthousiasmantes. Grosso modo, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'Apple a mis en place donc un programme qui va permettre à tous les réparateurs tiers qui se déclareront comme tels auprès d'Apple de leur transmettre des pièces d'origine Apple pour réparer les iPhones, mais aussi tous les appareils d'Apple. On le sait, hein, c'est un peu parfois compliqué d'avoir des composants qui soient reconnus complètement par iOS, parce que Apple met des garde-fous et veut garantir que vous avez un matériel 100% Apple qui est reconnu comme 100% Apple par le système d'exploitation, par les applications. Mais il était hyper compliqué pour les revendeurs tiers de le faire, pour les réparateurs tiers de le faire, et en général, ils se fournissaient en composants hautement compatibles, mais pas forcément reconnus par Apple. Alors, c'est bien parce que d'un côté, il y a des pièces Apple qui vont être proposées par des réparateurs qu'on va trouver en bas de chez nous, qui ne sont pas forcément des Apple Store, donc ça va peut-être faciliter les réparations, sans doute avec des réparations avec du matériel de qualité, et en même temps, ça ouvre une porte assez grande ouverte pour Apple pour du coup limiter les fonctionnalités du système d'exploitation quand un composant qui n'est pas reconnu par Apple est installé. On le sait par exemple pour les batteries, il y a des alertes quand c'est pas vraiment des batteries Apple qui vont bien dans iOS, ça bloque plus ou moins l'utilisation du smartphone selon ses fonctionnalités. Donc d'un côté, plus facile de réparer son iPhone, et de l'autre côté, un terrain tout tracé pour Apple pour faire en sorte qu'iOS se bloque complètement dès que, j'en sais rien, il y a le petit interrupteur de volume qui n'est pas l'interrupteur officiel Apple. Qu'est-ce que t'en penses, Guillaume ?
Ben ça, c'est déjà le cas, hein, de toute façon. Hein, c'est presque déjà le cas, disons.
Pas sur l'interrupteur.
Non, peut-être pas sur l'interrupteur, volume. Mais bon. On avait déjà parlé des composants comme ça qui avaient des espèces de, enfin qui devaient être signés pour pouvoir être acceptés par le reste du système. Oui, bah c'est un petit peu vers ce à quoi ils enfin c'est vers là qu'ils voudraient aller. Après bon, ils libèrent donc leurs pièces pour le grand public, on va dire, pour les tiers. Ouais. Ça c'est bien. Bon, de mon point de vue, c'est juste normal. Mais bon,
oui, voilà, c'est ça. Voilà. C'est comme je disais, on s'enthousiasme d'une normalité avec Apple.
Donc c'est quand même bien à la base.
Quelques infos sur iOS 13, parce que bon, la semaine prochaine, on en saura évidemment plus hein, sur les nouveaux iPhones, mais peut-être aussi d'autres propositions plus enthousiasmantes, parce qu'après tout, l'iPhone, on sait qu'il va être plus rapide, plus mieux, etc. Mais ce n'est pas forcément des choses très révolutionnaires. Ce qui pourrait changer un petit peu la donne, c'est le tracker d'objets, le tracker qui permettrait de géolocaliser les appareils auxquels vous l'attacheriez. On en avait déjà un petit peu parlé. Il y a déjà une société qui propose les Tile, qui est plutôt connue sur le sujet. Apple pourrait proposer quelque chose de très cool, mais on en a déjà parlé un petit peu dans le dernier épisode de Tech Café Domotique, donc écoutez un petit peu ce en quoi ça pourrait être intéressant pour votre vie quotidienne. Ça, c'est une première rumeur qui est dans les cartons, mais qui est hautement probable. En tout cas, pas d'utilisation de peer-to-peer, Guillaume.
Non. Alors, il y a quand même, donc il y a des tiles effectivement qui permettent de. Alors, c'est en fait, il y a une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Find My sur les trucs, qui est assez maline hein, puisque c'est les appareils qui envoient comme ça ils envoient des trucs Bluetooth, ils envoient des signaux Bluetooth qui peuvent être captés par une autre machine Apple et qui sont envoyés donc de manière cryptée quelque part sur le cloud et donc ils peuvent être récupérés par une machine, par une deuxième machine que le mec a, et donc s'il a perdu sa première machine, il peut la trouver par l'intermédiaire de la deuxième. Donc c'est assez malin quand même, c'est assez marrant. Il y a des trucs d'ailleurs kit donc qui permettent de localiser les trucs. Et alors ce fameux tile, en fait, oui, comme tu dis, ça a déjà été fait, ces balises de localisation comme ça. Moi j'espère que c'est parce qu'il y a un tracker Bluetooth du coup, donc ça envoie des signaux Bluetooth, donc c'est vrai que ça consomme très peu d'énergie, mais bon, quand même ça en consomme, ce qui veut dire que probablement il y a une batterie dedans. Et ce que j'espère, c'est que ça sera rechargeable ou on pourra les changer, quoi, parce que moi j'ai souvenir d'un tag comme ça de géolocalisation qui s'appelait Wistiki, je crois.
Oui, que tout j'avais... à fait, qui est français d'ailleurs.
Absolument, voilà, que j'avais refusé d'acheter, parce qu'en fait ça m'intéressait ce genre de truc à l'époque, et j'avais refusé de l'acheter parce que la batterie n'était pas remplaçable. Et donc au bout de 2 ans, tu jettes ton Wistiki, et j'avais trouvé ça inacceptable. Donc j'espère qu'ils feront mieux que justement Wistiki sur ce genre de truc. Ce serait quand même bien d'avoir ça en tête minimum. Bon, enfin, en tous les cas, voilà, c'est intéressant, c'était quand même intéressant. C'est vrai que oui, bon, comme tu dis, on avait discuté plusieurs fois la rareté des applications de communication pair à pair. Donc que ce soit AirDrop ou la possibilité de chatter hors infrastructure, et bon, on voit dans l'actu chaude même que Hong Kong, ben c'est des fonctions qui peuvent être bienvenues. Ben voilà, c'est à ma grande surprise, Apple et Intel travaillaient sur un projet qui s'appelait OGRS, qui se prononce Ogers même, voilà, pour Off-Grid Radio Service, qui devait faire exactement ça. En fait, c'est envoyer des textos en pair à pair, un peu comme Bridgeify, mais cette fois sur une fréquence radio de 900 MHz, donc c'est-à-dire une fréquence relativement basse, puisque le Bluetooth et le Wi-Fi, ça c'est dans la bande des 2,4 GHz, et du coup 900 MHz c'est très faible en fait, et c'est très bien parce que c'est au plus la fréquence elle est faible comme ça, au plus le signal a tendance à porter loin, et au moins il a tendance à être perturbé par les obstacles. Donc en fait, tu peux avoir une sorte de taki-waki qui porte beaucoup plus loin que ce qu'on a l'habitude, beaucoup plus loin que le Bluetooth par exemple. Donc c'était prometteur, hein, cette longueur d'onde plus basse aurait peut-être permis une portée de, oh, je sais pas, des centaines de mètres, peut-être même le kilomètre, à 900 MHz, faudrait être... Mais bon, voilà, moi je pense qu'effectivement ça aurait pu être vraiment utile, simplement en randonnée, quoi, par exemple, voilà, t'es en randonnée, t'es pas couvert par le réseau, ben, je sais pas, avoir un truc où tu peux communiquer avec tes potes voilà, qui sont perdus en forêt sur quelques kilomètres de distance, je pense que ça aurait pu être vraiment intéressant, vraiment utile. Donc c'est très dommage, voilà, espérons que ça arrive un jour quand même, parce que voilà, ce genre de fonction, je trouve ça très intéressant.
Quelques news, notamment autour du Huawei Mate 30 qui arrivera le 19 septembre, c'est dans quelques jours, Guillaume, t'es impatient.
Mais oui, on l'a vu, le Nex en vidéo, le Nex de Vivo. Et il est extraordinaire, hein, il est vraiment exceptionnel. Donc il a un écran incroyable, hein, extravagant même. Et le reporter de The Verge, donc il y a une vidéo où il l'a testé dans tout Londres. Donc il a pas arrêté de prendre des photos de partout pour montrer comment ça se fondait dans le décor, tellement l'écran était incroyable et sans bord et tout ça. Il a même fait une espèce d'effet de piscine. C'est de piscine à cascade comme ça. Et voilà, en gros, il est devenu un véritable obsédé nexuel. Voilà. Pourtant, on ne sait pas encore quand il va sortir. Et peut-être que Huawei, d'ailleurs, va faire un pied de nex à Vivo, puisque le 19 septembre, avec le Mate 30, avec son Mate 30, peut-être qu'il va créer la surprise, puisqu'il y a des fuites qui font état déjà de 4 appareils photo dorsaux. Et puis, il aurait été aperçu dans un métro avec un écran waterfall, comme ça, qui dégouline bien sur les côtés. Et donc, il faudra attendre l'IFA, vraisemblablement, pour en savoir plus sur le hardware. Donc, alors moi, évidemment, je trouve ça, j'ai l'air de me moquer, mais en fait, je trouve ça plutôt joli. Et c'est vrai que le Nex, je trouve assez sexy. Je dois bien avouer que voilà, je fais mon timide, en fait. Tu vois, je me cache, en fait, parce que je trouve assez désirable ce portable. Il est quand même vraiment très, très joli.
Tu parles du Nex ?
Du Nex, effectivement, et potentiellement du Mate 30 aussi, d'ailleurs. Mais bon, voilà, pour le hardware, il faudra voir.
Et puis, il n'a pas d'encoche, pas de trou.
Exactement, et ça j'aime beaucoup. Alors il a une petite caméra petite caméra évidemment amovible. Alors du côté hardware, donc il est très sexy. Le Mate 30, en tout cas, il semble très sexy. Le problème, évidemment, ça va être du côté software.
Il y a un petit problème, là.
Oui, voilà, c'est malheureusement confirmé. Hein, le Mate 30 n'aura pas accès au service de Google, et le Pro non plus, d'ailleurs. Alors, on sentait venir, hein, c'était pas vraiment une surprise. Mais c'est un vrai problème. Par exemple, il y a Frandroid qui a fait un sondage. Et le sondage révèle que 46% des gens n'achèteraient pas le téléphone sans Google Play, 27% le feraient s'ils pouvaient se débrouiller, donc voilà, évidemment, vous voyez ce que je veux dire, et 27% l'achèteraient sans condition. Donc il faut savoir quand même, faut se rendre compte que le lectorat de Frandroid, je pense que c'est vraiment pas l'utilisateur lambda, en général c'est des technophiles, hein, c'est des passionnés, des connaisseurs, donc il faut voir que
c'est justement pour ça que le chiffre est aussi élevé, je pense.
Alors, tu veux dire aussi élevé pour ceux qui le feraient, s'ils pouvaient se débrouiller ?
Pour ceux qui ne l'achèteraient pas, parce qu'ils ne disposent pas du Play Store. Parce que je pense que demain... Oui, c'est ça, hein, c'est ce que tu voulais dire, non ?
Non, en fait, moi, je pensais
que... Toi, tu le voyais dans l'autre sens.
Ouais, parce que la moitié des technophiles qui refroidit d'emblée, alors que, bon, bah, je veux dire... ils sont refroidis alors qu'ils savent qu'en fait on peut se débrouiller en général, je veux dire, pour avoir des stores alternatifs, tu vois, pour
Ouais, d'accord, ok, mais encore faut-il que le socle de départ ce soit un peu Android quand même.
Alors oui, c'est un truc effectivement, on n'a pas d'info pour le moment, mais enfin il est quand même probable que le Mate 30 reste sous Android, même si HarmonyOS donc on est censé être prêt, on a déjà beaucoup parlé. Est-ce qu'on va voir arriver le Mate 30 avec des services alternatifs, dont on a aussi parlé, alternatifs à Google Play, ou voilà, est-ce que ce sera Harmony ? C'est peu probable, je pense, pour le Mate 30. Est-ce qu'il va encore y avoir un retournement de situation de dernière minute, comme dans tous les bons blockbusters ? C'est possible, même, parce qu'il faut savoir qu'il existe une liste d'entreprises américaines, une liste où les entreprises américaines peuvent demander une exception pour continuer à faire des affaires avec Huawei. Mmh. Alors personne ne sait si Google est dessus, d'ailleurs. Selon Reuters, il y a quand même 130 boîtes qui se sont déjà déclarées. Donc tout demande une licence pour continuer le commerce avec les Chinois, mais personne ne l'a encore eu. Voilà. Alors bon, c'est qu'il y a une grosse versatilité du côté du gouvernement. Bon, ça sent compromis, hein. Il faut voir que voilà, il y a 100 milliards des 300 milliards de droits de douane supplémentaires sur les produits chinois qui sont entrés en vigueur ce week-end. Il y a donc les 200 milliards supplémentaires après qui arriveront encore en décembre. Donc au total, c'est quand même 550 milliards de droits de douane que paieront les boîtes américaines sur à peu près tous les produits, hein, électroniques bien sûr, mais aussi textiles, agricoles, manufacturiers, etc. Tous les secteurs sont touchés, donc évidemment ça pourrait changer de manière assez profonde en fait l'économie américaine, tout ça.
Je me demandais d'ailleurs dans quelle mesure est-ce qu'une entreprise comme EMX pourrait pas faire, tu sais, une réponse à la Amazon. Amazon, quand ils ont une réglementation, ils arrivent à trouver la bonne réponse qui va bien, qui joue avec la loi. Tu sais, par exemple, le prix des livraisons, là, il l'avait fait, je sais plus, à un centime parce qu'il était interdit d'offrir la livraison pour des commandes de livres en ligne. Je me demande si ils pourraient pas faire pareil en envoyant ces smartphones, donc sans les Play Services, etc., mais de donner un tuto qui facilite hyper simplement la démarche pour que les utilisateurs, au final, le mettent en place eux-mêmes. Tu vois, je ne sais pas dans quelle mesure ce serait assimilé à de la livraison du Play Store intégré ou pas. Mais
faudrait que ce soit vraiment facile si tu veux le vendre au grand public quand même.
C'est pas très très compliqué quand même, selon les appareils. Bah, s'il y a un seul Android, si tu regardes les Fire d'Amazon, tu peux très facilement y mettre le Play Store.
C'est pas faux. Bah, si tu es lecteur de Frandroid, je pense que tu pourras le faire sans trop de problèmes. Après, je ne sais pas vraiment si tout le monde pourrait s'y mettre.
Effectivement. Parmi les prétendants des entreprises qui pourraient continuer à utiliser Android, il pourrait y avoir des appareils Huawei, et notamment des TV connectés. Alors bon, il n'y a rien de très confirmé, hein, mais il semblerait que parmi les télés connectées qui seraient déclarées auprès des déclarations avant les lancements des produits, il puisse y avoir justement des télévisions. Harmony OS serait peut-être pas encore le système d'exploitation qui ferait tourner les télés. Savoir.
Très bizarre. Tout cela,
évidemment,
tout ça,
que des rumeurs. Ouais, c'est très,
très bizarre. Parce qu'ils vont sortir des télés sous Android alors qu'ils n'ont pas le droit de l'utiliser sur leur téléphone. Ça paraît
complètement bizarre. Peut-être qu'ils ont lu entre les lignes et qu'ils ont trouvé une faille pendant quelques mois, on va savoir, je sais pas. Bon, on n'y croit pas trop. Google, en tout cas, a choisi de délocaliser sa production de Pixel. Donc ça, c'est quelque chose de très concret, hein, je trouve. C'est-à-dire qu'ils mettent de côté la production en Chine du Pixel. Sauf que, là où on pourrait se dire, Donald Trump serait ravi de voir Google rapatrier la production des Pixel aux États-Unis. Eh ben non, ils vont l'envoyer au Vietnam, qui bénéficie d'infrastructures qui avaient été mises en place par Samsung, notamment des infrastructures pour s'approvisionner en circuits et en composants. Et donc, le projet a été initié cet été. Google a commencé à faire assembler ses pixels au Vietnam. Un petit pied de nez là aussi, non, Guillaume?
Oui, mais tu sais que ça pourrait devenir même différenciant. Enfin, ça pourrait devenir un véritable atout parce que, évidemment, délocaliser au Vietnam, ça coûte moins cher que de produire aux États-Unis, de manière très 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 probable, mais en plus, ils ne payeraient pas de droits de douane s'ils utilisent des composants qui sont, qui sont coréens et qui produisent au Vietnam. Ils vont éviter beaucoup, voire tous les droits de douane, alors qu'Apple, lui, il risque de s'y prendre plein pot. Et du coup, ça pourrait au final faire une différence de prix, qui pourrait être à l'avantage de Google, va savoir.
Bon, de toute façon, il y a un perdant, hein. c'est clairement la Chine, de toute façon, dans cette histoire. À voir, ce sera si embêtant que ça pour eux. On parle des smartphones, il y a peut-être un smartphone qui va recevoir votre adoubement, et c'est un smartphone qui a été abordé dans le groupe Telegram de Tech Café. C'est le Fairphone 3 qui est sorti. Alors le reproche qu'on peut faire du Fairphone, c'est son avantage, c'est que c'est un smartphone qui est pensé pour faciliter la réparation et puis pour utiliser des composants et des ressources matérielles qui soient un peu plus équitables que les autres smartphones. Mais le problème, le revers de la médaille, c'est qu'on y perd un petit peu en performance. Le Fairphone en version 3 intègre pas mal de technologies qui est tout à fait une technologie qu'on peut attendre aujourd'hui d'un smartphone moderne. Le capteur d'empreinte digitale, la reconnaissance faciale, la 4G, la double SIM et même la recharge rapide avec le port USB-C. L'appareil photo n'est pas en reste avec un capteur avant de 8 mégapixels et un capteur arrière de 12 mégapixels. Des technologies Sony, donc c'est les mêmes module qui équipe justement les Pixel 3 et les Pixel 3a, un écran LCD raisonnable de 5 pouces et demi, Android 9 est actuellement dispo dessus et Android 10 est prévu pour 2020. Il est livré avec un tournevis et un accès facile aux différents composants qu'il intègre, évidemment la batterie, mais aussi les différentes caméras, l'écran, et on peut se procurer les différentes pièces de rechange sur le site de Fairphone. Et Fairphone, d'ailleurs, au passage, garantit la disponibilité des pièces pendant 5 ans. Donc, ça laisse le temps quand même de voir venir quand on achète ce type de produit. Et puis, pour certains composants rares, notamment l'or, le lithium, le cuivre, qui sont qui entrent dans la composition du smartphone, ils se fournissent Fairphone avec des sources équitables. Donc, il y a évidemment un travail qui est fait un petit peu sur le sujet-là. Alors, problème, les tests montrent qu'ils pêchent un petit peu au niveau de la photo et que le prix n'est pas non plus dérisoire, puisqu'il faut l'envisager à un tarif de 450 €. Ce qui, évidemment, fait un peu mal parce que tu vois les smartphones de Xiaomi qui se prennent pas du tout la tête sur l'équité de l'approvisionnement des composants et puis sur la réparabilité des produits et qui sont vendus deux fois moins cher pour des performances supérieures. C'est un peu vexant. Est-ce que toi, tu franchirais le pas, Guillaume? Est-ce que tu ferais un acte militant en t'équipant d'un Fairphone 3?
Alors, moi, le Fairphone 3, c'est vrai que c'est un appareil que j'ai envie d'aimer, en particulier parce que...
c'est dur quand on dit ça, c'est qu'en général, c'est perdu.
Ouais, alors, c'est mon avis, là, hein, il a un souci fondamental, ce truc. C'est que, d'une part, je trouve que c'est très très bien. Alors, bon, l'idée du... On utilise des matériaux recyclés, on utilise des trucs, ouais. Voilà, des métaux comme ça hors zone de conflit, on essaie d'être un plus fair. Bon, ça c'est très bien, malheureusement c'est vrai que la plupart des composants c'est quand même des composants normaux, malheureusement, hein. Ils font ce qu'ils peuvent, c'est déjà méritant, mais c'est vrai que ils peuvent pas,
tout
faire. Il y a déjà un effort, donc c'est déjà pas mal. Après, le coup, moi ce que j'aime beaucoup par contre, c'est qu'il est réparable complètement, donc tu peux l'ouvrir très facilement,
tu peux changer
les pièces toi-même, ça c'est vraiment génial.
Il n'est pas très gros, d'ailleurs, par rapport à cet avantage.
Oui,
j'aurais imaginé qu'il soit plus gros.
Absolument. Il a un design qui est assez daté, mais moi, je m'en fous un peu. En fait, je trouve qu'il est pas mal. Et puis,
pas mal.
Moi, j'ai choisi, effectivement, mon propre ordinateur portable. Je l'ai choisi un peu plus les épais que, que les stars des trucs, mais au moins, je peux l'ouvrir et tout changer dedans. Enfin, voilà, il est beaucoup plus... c'est un modèle professionnel comme ça qui a cet avantage-là, et moi, j'aime beaucoup. Cela dit, le problème, en fait, c'est que ce qui rend un téléphone plus vert qu'un autre, en général, c'est juste que vous le gardez beaucoup plus longtemps. C'est ce qui est le moins écologique possible quand vous utilisez un téléphone, c'est de le changer tous les ans,
c'est
tous les
sûr.
Deux ans. Si vous utilisez un téléphone 5 ans, il sera beaucoup plus vert qu'un téléphone que vous changez au bout de 3 ans, fût-il un Fairphone. Et là où je suis vraiment déçu, c'est qu'ils ont mis un processeur qui est, à mon sens, complètement sous-dimensionné, puis c'est un Snapdragon 632. C'est une puce qui est correcte, mais qui n'est pas géniale, déjà aujourd'hui.
Ouais.
Et pour un téléphone qui est destiné à durer dans le temps au maximum, puisque c'est ça qui le rend écologique, je suis désolé, non, tu mets un CPU qui pète, comme ça, il reste fluide sur la durée. Là, si tu veux te trimballer avec un Fairphone pendant 5 ans, tu risques d'arriver à un truc qui crache ses tripes d'ici 3 ou 4 ans. Et c'est vraiment, vraiment dommage, parce que pour le prix... Honnêtement, ils auraient pu mettre un CPU qui soit plus future-proof, quoi, tu vois. Donc je pense que c'est là, pour moi, où ça pêche le plus. C'est que tu veux faire un téléphone qui est durable, fais des composants ou qui seront utilisables qui seront agréables à utiliser pendant le plus longtemps possible, quoi, tu vois. C'est un petit peu dommage, je trouve.
Je tente une petite objection à ce que tu viens de décrire, c'est que les smartphones durant les dernières années, alors j'ai en tête des Android mais aussi des iPhone, ceux qui étaient commercialisés il y a de ça 3-4 ans, restent mais complètement utilisables aujourd'hui pour des usages quotidiens parce que les systèmes d'exploitation sur mobile font des boulots de dingue et aujourd'hui optimisent vraiment. On n'est plus à l'époque où un nouveau système d'exploitation te faisait ramer ton précédent appareil. Alors ça veut pas dire que c'est systématiquement plus fluide qu'avant, mais on peut reconnaître quand même que les appareils tournent au moins aussi bien quand ils changent une version de système d'exploitation. Est-ce que tu penses que ça peut pas quand même tenir, alors peut-être pas 5 ans, mais quelques années de manière raisonnable sur des usages du quotidien?
Moi, je pense que ça peut tenir facilement 3 ans, facilement peut-être même 4 ans, mais après, si tu veux, le truc, c'est que combien de temps tu veux garder ton smartphone? Je veux dire, de toute façon, si vous voulez être écologique avec votre smartphone, achetez un smartphone d'occasion, gardez-le le plus longtemps possible, et puis revendez-le d'occasion et achetez un autre truc d'occasion quand vraiment il a du mal, et puis en fait vous serez déjà écologique même sans prendre un Fairphone en réalité.
C'est vrai.
Donc le Fairphone c'est très bien, le fait que ce soit réparable ça devrait être le standard de l'industrie, de mon point de vue, hein. C'est un scandale que ça le soit pas, bon ça l'est pas, mais si tu veux, si un Fairphone est destiné à être conservé 5 ans, de mon point de vue, il est un peu sous-dimensionné au niveau, okay. niveau puissance. Voilà, c'est tout.
Ultime question, pour être sûr qu'on ait une émission trop longue, il est complètement inenvisageable aujourd'hui de changer un processeur sur un smartphone. La question peut paraître débile, hein, mais...
Alors, c'est pas inenvisageable. Enfin, si, c'est inenvisageable. On va dire. Non, mais soyons clairs, oui, c'est inenvisageable. Déjà, les processeurs sont plus changeables dans les ordinateurs portables, puisqu'on utilise du BGA, c'est-à-dire du Ball Gate Array. Donc, en fait, c'est plus des pins, c'est plus des petits connecteurs, c'est des petites bouboules. Et donc, vous posez le truc dessus, c'est plus des trucs qui sont assez soudés, en fait. Hein. Vous pouvez plus changer les processeurs de vos portables, comme ça a pu être le cas. Ou peut-être c'est encore le cas de manière ultra exceptionnelle. Dans le cas d'un système sur puce, donc c'est le même principe, mais c'est pour des puces qui sont encore très largement plus petites. Donc ça veut dire qu'on a des BGA, on a des analogues au BGA qui sont vraiment extrêmement minuscules, qui sont extrêmement précis, tout est soudé. Donc je pense que c'est complètement inenvisageable de faire ce genre de truc. Ou alors tu fais des blocs, en fait, avec des connecteurs, mais c'est totalement différent, quoi. Ça voudrait dire qu'il faudrait réintroduire une nouvelle forme de socket. Donc ce serait...
C'est un peu ce que je pensais à chaud, sans avoir de connaissances approfondies, mais je préfère poser la question. Rubrique en bref, on essaie de vous lister des news, quand même en bref, pour que vous ayez une vue complète de l'actualité tech. Un premier sujet autour d'Amazon, on avait parlé du fait qu'aux États-Unis, ils allaient pouvoir faire en sorte de donner des produits plutôt que de les détruire. On s'était ému du fait qu'on espérait que ça arriverait en France. Amazon pointe du doigt la réglementation en Union européenne qui impose que la TVA soit acquittée par le dernier acheteur. Et ça pose, a priori, selon eux, des soucis, notamment dans le cas des vendeurs tiers qui utilisent la plateforme Amazon pour vendre leurs produits, puisque comme il n'y a pas eu d'acheteur final, ça les amènerait à payer la TVA, ce qui s'avérerait plus cher que de payer la destruction du produit. Excuse valable ou pas, Guillaume ?
Valable, c'est-à-dire, je pense que c'est une excuse valable dans le sens où la législation, elle est débile, quoi. Enfin, ouais. Elle empêche elle empêche économiquement un truc normal de se faire. Donc, il faut changer la législation. J'espère bien d'ailleurs que dans un futur proche, avec cette loi économie circulaire, là, les choses vont changer parce que là, je pense qu'il y a un vrai souci, quoi.
On espère. Guillaume, t'as enfin trouvé une manière de protéger ton Apple Card ?
Oui, mon Apple Card, tu sais, c'est mon Apple Card si fragile qui supporte pas ni le denim ni le cuir. Heureusement, je peux le mettre désormais dans un étui en bois,
magnifique.
Même en noisetier, qui est absolument magnifique, qui est tellement gros qu'on dirait, en fait, l'étui, on dirait la taille d'un iPhone quasiment. Il coûte $139, mais... Je veux dire, il est quand même absolument incroyable, quoi. Et cet étui te permet de protéger ton Apple Card qui, comme ça, tu es sûr, au moins ne se décollera pas.
Un truc cool qui pourrait vous plaire si vous aimez les écosystèmes Android, mais que vous aimez Apple Music. Apple Music, dans sa version bêta, va intégrer la diffusion par Chromecast. Moi, je trouve ça plutôt cool. Rumeur pour la prochaine Apple Watch qui intégrerait le suivi du sommeil. On verra la semaine prochaine si c'est effectivement, si ça fait partie des présentations. Et puis, un mode... attentif en classe. Alors Guillaume, rassure-toi, si jamais tu veux que les écoliers soient tous bien sages en classe et ne regardent pas leur Apple Watch beaucoup trop invasive, eh bien, il y aura une nouvelle fonctionnalité qui serait baptisée en anglais School Time, qui irait encore plus loin que la fonctionnalité ne pas déranger et qui pourrait être programmée. Et en fait, c'est peut-être ça qui est très cool d'ailleurs dans l'absolu, c'est de pouvoir programmer la manière dont tes appareils se mettent en mode ne pas déranger. Mais je sais que bizarrement, je ne sais pas pourquoi, mais je ne suis pas certain que tu te sentes extrêmement concerné. Et pourtant, tu as vu passer une nouvelle maladie que tu as dénoncée sur les smartphones qui arriverait sur les montres. Ce serait celle des trous, Guillaume ?
Oh, c'est une catastrophe. Hein. Le CCE, le CCT sont dans tous leurs états. Puisque, effectivement, Google a déposé un brevet. Alors, c'est pas tout de suite, en fait. C'est un brevet qu'on a déterré, qui date de juillet 2017. Donc, c'est un brevet qui, sur une montre connectée, qui intégrerait une caméra, et cette caméra, elle serait au milieu, en fait, de la, alors, c'est une montre qui est donc circulaire. Et donc, au milieu, il y aurait un trou par lequel, comme sur un téléphone, hein, il y aurait la caméra derrière le trou. Donc, pour quelle raison est-ce qu'on aurait envie d'avoir une caméra dans une montre ?
Des selfies.
Probablement pour faire des selfies et passer des appels avec Skype. Alors, je ne sais pas exactement à quel point c'est intéressant de passer des appels avec Skype avec le bras tendu comme ça pendant 4 ou 3 quarts d'heure. Mais bon, voilà, apparemment, il est possible qu'un jour, les caméras dans les montres, ce soit un truc, va savoir. Bon.
Ça fait rêver, hein.
Non.
Ça fait pas rêver. Des traces de réalité augmentée et notamment d'appareils qui exploiteraient la réalité augmentée auraient été identifiés dans iOS 13. Donc est-ce que Apple là aussi avance vers des appareils de réalité augmentée? En tout cas, ils bossent dessus, ça c'est clair. Qu'est-ce que tu nous avais rajouté en bref, Guillaume, qu'on pourrait lister?
On parle de réalité augmentée, on peut parler des focales. Alors focales, c'est donc il y a North, une entreprise qui s'appelle North, qui fabrique des lunettes de réalité augmentée qui s'appellent les focales. Bah oui, c'est truc anglais, donc les focales. Et ces focales, elles ont la particularité d'être des lunettes qui ont l'air tout à fait normales et qui projettent des trucs sur le verre. Alors, ça existe déjà en fait, hein, mais il y a deux news. La première, c'est qu'elles sont beaucoup moins chères désormais, vu qu'elles coûtent $600 au lieu de 999, ce qui est une bonne nouvelle pour ceux que ça intéresse. Mais en plus, Elles peuvent projeter des notifications, toutes notifications Android. Donc elles deviennent un tout petit peu plus utiles, vu que effectivement, tu peux interagir avec, je pense qu'on en avait parlé à un moment, mais bon, voilà, on va redire. Tu as un petit anneau, une espèce de bague, as un doigt avec un petit bouton, donc ça détecte tes gestes, et puis tu as un petit bouton pour valider sur le côté de la bague. Et donc, quand tu as des notifications, comme une notification de Gmail, par exemple, qui t'arrive, tu la vois arriver sur ton champ de vision, et tu peux interagir en faisant des gestes comme ça, dire oui, bah, ça m'intéresse, renvoyer, et voilà, virer, etc. Donc c'est très futuriste, hein, faut bien le dire. Ça, je ne sais pas si c'est vraiment très très utile pour le commun des mortels, mais en tout cas, c'est très futuriste, et bien, voilà, si vous voulez donc faire du Minority Report un petit peu comme ça, avec vos lunettes, ben ça ne coûte plus que $600. C'est une bricole.
Une bricole, effectivement. Du nouveau sur Windows.
Oui, je peux enchaîner avec HoloLens 2, puisqu'on parle de réalité augmentée. Donc HoloLens 2 arrive en septembre, quelque part en septembre, on ne sait pas, donc ça vient. Et alors le truc, c'est que ça a été annoncé d'ailleurs dans la conférence sur l'intelligence artificielle, où il y a Elon Musk et John Ma qui ont tapé le carton racontant bien beaucoup de conneries sur, bon, enfin, on pourra en reparler, mais c'est pas très vraiment le truc. En tous les cas, là, on n'a pas vraiment de date, on sait juste que ça va coûter $3,500, ce qui est pas très surprenant, mais ce qui est malheureusement assez cher pour ces HoloLens 2 Kit. Voilà donc comment on parlera du hardware de HoloLens 2 dans un autre épisode qu'on va enregistrer juste après. Mais pour l'instant, juste ça. Donc ensuite, Microsoft, pendant qu'on y est, a aussi dévoilé des nouvelles possibilités pour une interface qui soit un peu tactile, mais pas trop, puisque tu sais qu'on avait l'interface tactile de Windows 10
oui,
qui se met en place en mode tablette. Bon, mais oui, en fait, si tu es en mode bureau, c'est pas très agréable.
Arrivé des Windows 8, si je dis pas de bêtises.
Voilà, oui, alors le Windows, il y a beaucoup de choses au Windows 8 qui sont passées à la trappe, mais bon, voilà, il y a quand même toujours un mode tablette. Là, le but, ce serait d'avoir un mode un petit peu entre deux, où quand vous avez la tablette, vous pouvez avoir un mode bureau, mais avec une ergonomie qui soit quand même compatible avec le touch. Donc ce serait, voilà, des petits changements un petit peu mineurs comme ça qui pourraient quand même faire la différence. Et puis, dernière news, on s'achemine petit à petit vers des fonctionnalités à la macOS, par exemple avec la possibilité de réinstaller un système via le cloud, donc on n'a pas besoin de télécharger comme ça une version du système d'exploitation. On a vu d'ailleurs aussi des ventes d'une fonctionnalité qui permettrait de transférer, enfin en gros quand vous changez de machine Windows, vous pourriez à un moment donc retrouver votre configuration pour ça. Pas encore vraiment de nouvelles, mais voilà, donc on s'achemine petit à petit vers des fonctionnalités qui sont analogues à celles d'Apple, mais chez Windows.
Bon, après, s'il s'inspire de ce qui a fait preuve de qualité, c'est très bien. Hein.
Exactement.
Ça me va bien. Des petites news de Disney+, décidément, on en parle toutes les semaines, mais sur le modèle économique, Guillaume.
Oui, mais Disney+.
Pas sur le modèle économique, pardon, sur le mode de diffusion des contenus, plutôt.
Oui, mais c'est un modèle économique, en réalité. Puisque Disney+, à la différence de Netflix, ils sont pas cons. Qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils se disent, ben oui, on va, tu veux voir tes épisodes? Ben écoute, s'il y a 6 épisodes, ben on les diffusera sur 6 semaines. Donc ça veut dire que tu vas devoir rester abonné 6 semaines. Et bien entendu, à la fin des 6 semaines, on te met une autre série qui va redurer 12 semaines, etc., etc. Donc ce sont des petits malins, hein, et au lieu de faire des blocs que tu peux binge-watcher comme chez Aloisir, ouais, comme chez Netflix, eh ben non, ils vont essayer de te retenir comme ça en reprenant un rythme hebdomadaire comme au bon vieux temps.
C'est tellement Disney, en fait. Mais ça fait vraiment argument pour faire retenir les gens, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui se voyaient déjà dire « Oh bah ouais, moi Disney+, je vais le prendre un mois de temps en temps pour tester, je vais me désabonner. » Peut-être être compliqué. Bon, bref. La Switch Lite, on a quelques retours, Guillaume.
Oui, bon, ils sont globalement très bons. On va aller très très vite là-dessus. Ils sont très très bons. C'est une console qui est extrêmement mignonne, qui a été plébiscitée par la presse, qui n'a aucun problème particulier. Au contraire, elle est plus légère. Elle a En gros, c'est une super machine qui probablement va faire un carton à Noël. Et il n'existe pas encore de, d'étui, comme au Japon, puisque pour 35$ au Japon, vous avez un étui qui est très très joli et qu'on aimerait voir arriver bientôt. En tout cas, moi, la Switch Lite, je peux vous dire que elle me hype bien. Je pense que j'en aurai une à un moment donné.
Au pied du sapin de Guillaume Poggespala, tu verras qu'il y aura une Switch. Quelle couleur, Guillaume ?
La couleur, j'y ai même pas réfléchi.
Jaune.
C'est vrai, ça.
Jaune,
ouais,
parce que jaune,
pas,
c'est classe.
Pourquoi pas, je sais pas. Ouais. Bon, il faudra que je réfléchisse.
Quelques mots d'émulation en attendant pour que tu patientes avant
oui,
de recevoir.
Oui, je vais patienter avec RetroArch parce que désormais RetroArch inclut des fonctionnalités d'intelligence artificielle de chez Google, puisqu'il y a l'API Google qui permet de traduire donc les textes, a été utilisée au sein de RetroArch pour traduire les textes en japonais dans des jeux qui n'ont pas été localisés. Donc il y a l'exemple de. Alors ils ont utilisé un exemple sur lequel ça marche pas trop mal, qui c'est ActRaiser. Il y a beaucoup de texte, donc la traduction peut se faire soit vocalement, soit directement sur l'image, où vous avez donc le texte en anglais qui est en surimpression, ce qui est vraiment très impressionnant.
C'est alors, génial. En
fait. Kotaku a retesté avec Mother 3, et comme on pouvait s'y attendre, la traduction est très, très approximative, et en réalité, quand on a des phrases un petit peu plus compliquées, quand je dis plus compliquées, ça veut dire une phrase avec trois propositions, quoi, globalement, ça part complètement en sucette. Cela dit, ça reste quand même intéressant, parce que, voilà, déjà, ça peut donner une idée des textes, et puis, ne serait-ce que pour les instructions, tu sais, les commandes et tout ça, ça peut être vraiment très précieux. Donc, c'est assez impressionnant, quand même, et même si c'est très perfectible, c'est quand même une avancée, vraiment, c'est vraiment très impressionnant, vraiment super sympa.
On souligne, c'est cool, c'est très très bien. Un peu de news sur Telltale, il faut que tu nous rappelles.
Oui, Telltale, ceux qui ont fait donc Walking Dead, et l'adaptation de Walking Dead, Wolf Among Us, Minecraft Story Mode aussi par exemple, ouais, bon, ils sont morts, les pauvres, depuis presque un an maintenant d'ailleurs, comme le temps passe. Et ben, il y a une compagnie qui s'appelle LCG qui est en train de racheter les assets et les trademarks, voilà, donc pas mal de propriétés intellectuelles, dont Wolf Among Us d'ailleurs et Batman. Ouais. Et qui vont probablement s'en servir, ils vont probablement aussi prendre des gens de chez Telltale, probablement sous contrat d'abord, et peut-être même en freelance, on ne sait pas encore, mais Telltale pourrait revenir.
On reparle de mobilité urbaine avec Hyundai ?
Oui, alors j'aimerais ton avis, justement, parce que alors, le concept, il est, pour moi, le concept, il est un peu antinomique, mais bon. Donc Hyundai, ils font des voitures, mais ils font aussi des trottinettes électriques. Et le plus beau, c'est que leur concept, c'est de faire une trottinette électrique qui sort d'une voiture, et qui est, la voiture, c'est le vaisseau mère, tu vois, de la trottinette. Ouais. La trottinette sort de la voiture, elle peut s'y recharger, tu peux l'utiliser donc comme une trottinette normale, hein, elle va à 20 km/h, comme une trottinette électronique standard, et puis quand tu reviens à ta voiture, tu la remets dedans et tu pars en voiture. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est une trottinette pour le last mile, c'est-à-dire des fois que tu aurais pu utiliser tes pieds et faire marcher tes jambes, non, attention, faut pas y aller déconner, c'est tellement 2018 d'utiliser ses pieds. Non, tu viens en voiture, tu te gares au parking et après tu prends ta trottinette électrique pour aller au restaurant. Je trouve que c'est bizarre parce que pour moi la trottinette électrique c'était censé remplacer la voiture, mais pas la complémenter, parce que pour moi complémenter la voiture c'était les jambes, tu sais. Je sais pas, est-ce que c'est pas un petit peu exagéré de penser à des trottinettes électriques pour le last mile ?
Bah, je suis mitigé, moi, tu vois. En fait, en termes de proposition, je trouve ça pas forcément inintéressant. Selon les environnements urbains dans lesquels tu vas, tu peux avoir... ça dépend là aussi de l'autonomie, hein, mais quand on parle de last mile, si c'est vraiment un mile, donc c'est quoi un mile ?
Un kilomètre et demi. Non, mais je pense qu'elle a une autonomie qui est à peu près standard, honnêtement.
Donc, tu vois, si c'est une autonomie comparable aux autres trottinettes électriques, moi, je trouve ça plutôt cool, parce que, paradoxalement, je pense que des trajets de 10-15 minutes en trottinette, tu les ferais pas à pied. Tu les ferais peut-être à la limite en transport en commun, mais pas forcément à pied. Et je me dis que ça peut être un bon complément à la voiture. Il y a un truc qui est vraiment insupportable avec les trottinettes électriques aujourd'hui, pas se plaindre. Hein. Mais moi, la M35 là, de Xiaomi, si je la plie et que je la mets dans mon coffre, ça me prend la moitié de mon coffre, quoi. C'est-à-dire que c'est pas gros, mais ça prend quand même beaucoup de place dans ma voiture. J'ai pas non plus une voiture immense, mais ça me prend une bonne place dans mon coffre. Et si jamais c'est pensé dès le départ, ça veut dire que ça va s'intégrer parfaitement à la voiture. Et surtout, l'avantage que j'y vois spontanément, c'est que si t'es dans un cas où tu fais de la voiture plus de la trottinette régulièrement, t'as pas besoin de te prendre la tête à recharger ta trottinette, sans doute que ça la recharge au fur et à mesure. Moi je trouve ça plutôt cool comme proposition, même si effectivement comme ça à chaud tu te dis marche quoi. Marche.
On continue dans les véhicules électriques peut-être, en donnant cette info sur l'Aptera. Captera, c'est une boîte qui veut fabriquer une voiture. Alors non, pardon, Aptera, c'est le nom de la voiture. Mais je pense, je crois que c'est Aptera, c'est aussi la...
Non,
en fait,
de...
Aptera, c'est la marque. Et elle va faire des voitures. Et donc, elle va faire des voitures qui ont une gueule extrêmement bizarre, puisqu'elles ont trois roues. Et elles sont carénées de manière extrêmement optimisée pour offrir le moins. C'est très futuriste, oui. Et puis, c'est vraiment pour offrir le moins de résistance à l'air possible. Et donc, la particularité, c'est qu'elles consomment extrêmement peu d'énergie, à tel point qu'elles peuvent avoir jusqu'à 1600 km d'autonomie sur une seule charge. Et évidemment, le châssis est minimaliste, les roues sont toutes petites et vous êtes littéralement assis sur les blocs batterie. Et le bloc batterie, en fait, c'est le siège. D'ailleurs, c'est très visible quand vous voyez l'écorché de la voiture. Et donc, l'Aptera, c'est une voiture que vous pourrez acheter à part, a priori, dès 2022. C'est un truc qui, malheureusement, sera relativement cher puisque ça coûtera entre 31 000 et 53 000 euros. Et malheureusement, c'est la version de 53 000 euros qui aura 1600 km d'autonomie. C'est très dommage que ce soit aussi cher parce que, franchement, avec la consommation qu'elle a, globalement, les trajets quotidiens deviennent quasiment, le prix devient quasiment dérisoire, quoi. Donc, ça aurait été sympa. Alors, c'est un financement participatif. Et ben oui, Aptera, c'est un financement participatif. Ils ont besoin de 100 000 dollars. Ils en ont récolté déjà plus de 50 000. Donc, ça devrait aller.
Mais t'as quoi en contrepartie de la participation au financement participatif?
Excellente question.
T'as une voiture ou pas? Parce que alors, tu mets 50 balles et que t'as une voiture avant les autres, c'est cool, quoi.
Je pense que tu peux avoir un boulon d'une voiture.
Ça peut être déjà
une
pas
vis,
mal.
Un truc comme ça, ouais. Je pense que ça peut commencer à une vis. Voilà, donc un projet intéressant, mais bon, je trouve quand même que c'est vraiment très très cher, malheureusement.
Un radar révolutionnaire pour voir quand on dépassera les vitesses, Guillaume.
Oui, non, en fait, c'est pour voir quand tu fais trop de bruit. Et c'est la ville de Paris qui... c'est un radar qui est baptisé Méduse, qui est fabriqué par Bruit Parif. Et ce truc, en fait, c'est un véritable radar, sauf qu'au lieu de détecter ta vitesse, il détecte le bruit que tu fais. Et donc, il sera capable à terme, probablement, de prendre en photo et de verbaliser comme un radar normal les véhicules qui sont trop bruyants, parce que voilà, le bruit, c'est aussi un problème de santé publique. Hein. Il y a des études qui montrent que c'est mauvais pour la santé d'être exposé à trop de bruit. Donc, je sais que ça va probablement faire énormément parler, mais il n'est pas impossible que dans le futur, on ait des radars à bruit, et en plus des radars de vitesse.
Un dernier mot pour dire que côté Facebook, il y a des personnes qui se sont amusées à observer un petit peu le code de l'application et qui ont remarqué qu'il y aurait des fonctionnalités prévues pour cacher le nombre de j'aime, de likes sur un post aux utilisateurs. La fonctionnalité amènerait les utilisateurs de Facebook uniquement à voir les petites émotions de réaction à une publication, les commentaires textes, pas le nombre de likes. C'est intéressant de voir que cette démarche qui est déjà testée sur Instagram, donc aussi par Facebook hein, dans certains endroits dans le monde, va complètement aux antipodes de ce qu'on avait il y a quelques années. C'était un peu la course aux likes et on en vient à avoir un petit peu honte et à se rendre compte que c'est peut-être quelque chose qui peut amener à faire de la dérive des usages sur le numérique. Donc à voir si demain, peut-être qu'on n'aura même plus le nombre de likes sur Facebook. C'est bientôt l'IFA, hein, dans quelques jours, donc on aura grand plaisir à vous relayer pas mal de news de ce qu'on aura pu voir annoncer au salon. Il y a déjà des choses qui circulent, mais je pense qu'on rassemblera tout dans les prochains épisodes. Un petit mot et un petit follow-up d'interaction, Guillaume, avant qu'on passe au bonus, un commentaire de Greg Bot, qui n'est probablement pas un bot, mais qui commentait sur techcafé.fr, juste un petit mot qui n'est pas une critique, mais un point de vue différent sur la formule intelligence artificielle en rapport au super dernier podcast. Merci à toi en tout cas pour avoir dit ça. Quand Guillaume, donc pour que j'aspe pas là, tu dis du ver faisant le calcul de multiplication, il n'est pas intelligent. Intelligence en anglais, c'est vraiment plus dans l'idée du data, comme la CIA par exemple. Elle n'est pas intelligente, mais gère des infos. En français, on a une sorte de shift du mot intelligent, donc en gros, on le réinterpréterait à notre culture, qui mène à un problème de compréhension de l'intelligence artificielle à la Terminator. Qu'est-ce que tu peux lui répondre, Guillaume?
C'est vrai qu'il y a deux sens à intelligence en anglais, ça, c'est tout à fait vrai. Par contre, honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de glissement de sens, parce que je suis allé voir sur le Oxford Dictionary la définition de intelligence, donc sur le dictionnaire unilingue. Et l'intelligence, donc le premier sens, c'est the ability to acquire and apply knowledge and skills. Donc
l'intelligence comme on l'entend. Quoi.
C'est l'intelligence comme on l'entend, nous, voilà, il n'y a pas de problème après. Il y a aussi Donc le deuxième sens, c'est effectivement the collection of information of military or political value. Donc voilà, c'est ce qu'il dit, c'est effectivement toutes les informations qu'on peut avoir, mais ça de manière stratégique, quoi. Donc ça, c'est c'est le I de Intelligence Agency dans CIA, hein, effectivement. Cela dit, je pense pas qu'il y ait de possibilité de confusion, en fait. Parce que il y a quand même une connotation, d'après ce dictionnaire, il y a quand même une connotation vraiment militaire de l'information, tu vois, il y a quand même... Alors que quand on utilise intelligence dans artificial intelligence, ou dans intelligence artificielle en français, on entend beaucoup plus le premier sens. Et d'ailleurs, si on cherche sur ce même Oxford Dictionary Artificial Intelligence, on a the theory and development of computer systems able to perform tasks normally requiring human intelligence, such as visual perception, speech recognition, decision making, and translation between languages. Bon, donc, voilà, donc en fait, c'est la. Voilà. Les tâches qui, normalement, requièrent l'intelligence humaine, et je pense que, quand ils disent intelligence humaine, ils se réfèrent au premier sens du mot intelligence, qui est la possibilité, donc, la capacité hein, d'acquérir et d'appliquer des connaissances et des savoir-faire. Donc, je ne suis pas complètement sûr qu'on puisse vraiment avoir un glissement de sens, que ce soit en anglais ou en français. Je ne suis pas complètement sûr de ça.
Bon. Écoute, en tout cas c'est très clair sur l'échange, faites-vous votre avis, même si je rejoins un petit peu ta position Guillaume. On enchaîne en tout cas avec les bonus. Guillaume, qu'as-tu emmené dans ta besace pour les bonus de cet épisode de Tech Café?
Oui, qu'est-ce que j'ai amené? Je sais plus. Ah oui, la chaîne YouTube Film Riot que j'ai trouvée il n'y a pas très très longtemps, mais qui est très ancienne puisqu'elle a 10 ans et plus de 1000 vidéos. Et c'est une chaîne qui est maintenue par deux frères qui sont passionnés de cinéma qui sont devenus petit à petit, en fait, hein, en se formant sur le tas, de véritables réalisateurs professionnels. Donc ils font des courts-métrages qui, pour être courts, n'en sont pas moins de qualité, hein, puisqu'ils ont une qualité visuelle qui est identique à celle des blockbusters. Et ils donnent évidemment les trucs, comment ils les font, et ils ont 1000 vidéos, donc parmi ces 1000 épisodes, il y a des vidéos de courts-métrages, il y a les making-of, il y a aussi tout un tas d'astuces, et c'est vrai que c'est vraiment intéressant parce que ça, on découvre tous les petits trucs qui sont utilisés dans tous les blockbusters, dont on ne se rend pas compte, dont on n'a pas conscience quand on regarde des gros films d'action, donc c'est vraiment pas mal si vous aimez le cinéma. Alors c'est américain, c'est tout en anglais, c'est un petit peu... parfois c'est pas complètement évident à comprendre, mais n'oubliez pas que sur YouTube, vous avez le sous-titrage qui peut beaucoup aider.
Ouais, effectivement, il marche plutôt pas mal, même si parfois il y a des comportements là aussi à Google Translate, donc comme on le décrivait tout à l'heure. Mais ça permet de bien comprendre. C'est que j'ai découvert Le Joueur du Grenier, sans doute après La Terre Entière, oui. Mais je me suis explosé de rire à regarder les vidéos
mal,
ouais. Du Joueur du Grenier. Ouais, c'est très très bon dans la famille YouTube. Ce sera pas mon bonus. Mon bonus, c'est un petit lien que vous prendrez le temps d'aller consulter d'un article qui décrit les origines de l'obsolescence programmée. Alors, il ne faut peut-être pas y voir l'origine comme étant ce qui a inspiré tout le reste, mais en tout cas, c'est la première occurrence de ce qui est décrit comme l'obsolescence programmée et qui est un concept qui a été formulé la première fois en 1932 par un agent immobilier américain, Bernard London, qui donc pourrait laisser croire qu'il est anglais, mais il était bel et bien américain. Et il faut se resituer en 1932 où il y avait une crainte, c'était le chômage et le chômage de masse. Et sa proposition, c'était de mettre en place une obsolescence programmée, mais assez transparente et complètement décomplexée, hein, sur pas mal de produits pour stimuler l'emploi. L'idée, c'était alors je cite, hein, en quelques mots, l'essence du plan que je suggère pour atteindre ces objectifs tant désirés, donc le plein emploi, consiste à planifier l'obsolescence des équipements et des biens de consommation dès leur fabrication. Et il envisageait même de faire en sorte que l'État puisse fixer la durée de vie des objets et dire, au moment où ils sont fabriqués, tiens, cet objet-là, il faudra qu'il dure tant de temps. Le consommateur l'aurait acheté en connaissance de cause et aurait été obligé de le remplacer après quelques temps pour stimuler la consommation. Alors ça, c'est dingue de voir juste la vision de ce truc-là et cette proposition complètement décomplexée qu'il faut remettre dans son contexte. Hein. Je pense qu'il n'y avait pas ce qu'on décrit aujourd'hui. Et évidemment, les attentes des gens étaient tout autres par rapport à aujourd'hui. Mais évidemment, ça fait bizarre quand on voit ce type de proposition de manière complètement intentionnelle. Quoi. Tu connaissais ses origines, Guillaume ?
Pas vraiment, mais en fait, c'est vrai que ça m'étonne pas plus que ça, puisque ouais. C'était l'époque, si tu veux, où les limites en fait, de la croissance étaient très très loin. Donc, ouais. Ça, c'était complètement. Les impacts écologiques, c'est des externalités auxquelles dont on tenait absolument pas compte, quoi.
Bon, bah écoute, on a fait le tour de toutes les news qu'on avait prévu de vous relayer pour cette émission de Tech Café. Guillaume, est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut interagir avec toi ?
Bah dans les commentaires de Tech Café ou bien sûr Telegram et éventuellement, en tous les cas, vous pouvez toujours essayer.
C'est déjà bien d'essayer. Pour ma part, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr. Là, vous vous retrouvez aussi tous les liens vers toutes mes présences podcastiques. Je compte sur vous, bien évidemment, pour continuer à évaluer le podcast sur Apple Podcast. À en parler surtout autour de vous, à vos proches, si ils ne connaissent pas Tech Café. Incitez-les à écouter. Et puis peut-être qu'ils vont vous dire « Oh là là, mais c'est trop long cette émission !» Eh bien, vous pouvez leur rappeler qu'ils peuvent écouter en plusieurs morceaux l'émission. D'autant plus que les épisodes sont chapitrés, donc vous pouvez sauter les parties qui vous intéressent a priori moins. On se donne rendez-vous dans quelques jours maintenant pour un prochain épisode de Tech Café ou peut-être, allez savoir, une chronique des composants. À très bientôt dans Tech Café. Ciao à toutes et à tous.
Ciao à tous.